18h-20h,
le grand journal du soir,
Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, bonsoir Marlène.
Bonsoir Wendy.
Ravie de vous retrouver pour votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. 2 heures d'infos, de débats et de découvertes pour éclairer notre société. Avec aujourd'hui des radicaux et des casseurs fixés à Paris, place d'Italie, acte 53 des Gilets jaunes. Quel sens a encore cette expression un an après? Nos invités en débattront. 18h50, il paraît que la musique, chers amis auditeurs, adoucit les mœurs. Alors avec une artiste rock, poète et populaire, on se fait plaisir ce soir. Véronique Sanson triomphe dans tous les zéniths de France. Fabien Lecoeuvre nous raconte les moments forts de sa carrière. 18h30, on refait l'actu ce soir. La France sortira-t-elle ou pas du glyphosate dans 2 ans? Ça semble plus compliqué que prévu. Julien Dive, député et président de la mission de suivi, Christiane Lambert de la FNSEA seront avec nous. 18h40, l'interview découverte avec l'historien Jean-Pierre Guénaud qui nous présente les plus beaux manuscrits du général de Gaulle. 19h40, l'œil de Frédéric Dabi à suivre qui voit jaune cette semaine, des gilets jaunes justement, à la mort de Raymond Poulidor. On commence évidemment par le journal présenté par Fabienne Lemoyle. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
18h.
Pas ce que j'espérais, mais je savais que ça allait se passer comme ça. Parce que tout était fermé aux alentours, tout le monde se recroqueville et forcément, ça pète.
Le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes marqué par des violences à Paris, principalement concentrées place d'Italie, d'où devait partir une manifestation finalement annulée. Nous serons sur place. Vous entendrez aussi le préfet de police de Paris qui assume d'avoir encerclé les éléments les plus radicaux. Situation nettement plus calme en région.
Les agents d'Enedis toujours en cours d'intervention en région Rhône-Alpes alors que 145 000 foyers étaient en encore privé d'électricité en début d'après-midi.
Ce soir, on va être à peu près à 70% des clients qui ont été réalimentés. On n'a pas de vision précise pour dire à quelle date exactement tous les clients seront réalimentés.
Et puis quand la musique classique nous interpelle sur le réchauffement climatique, concert étonnant ce soir à Hambourg avec les 4 saisons de Vivaldi revisitées.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h dans votre grand journal. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Tout le monde se demandait, Fabienne Lemoyle, quelle tournure allait prendre ce premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes avec près de 200 appels à manifester sur tous les réseaux sociaux. Il y a un an, on vous le rappelle, ils étaient 282 000 à travers la France, principalement rassemblés sur des ronds-points.
Des ronds-points nettement moins occupés aujourd'hui en région. À Paris, ce sont les violences principalement concentrées place d'Italie avec des casseurs que l'on retiendra. Place d'Italie, d'où devait partir une manifestation autorisée en début d'après-midi, finalement annulée par la préfecture. Théo Manval, vous êtes aux abords de cette place dans le sud de la capitale. Est-ce que le calme est revenu ce soir ?
Oui, la circulation a même repris, Fabienne, mais sur une place saccagée. Le sol est jonché de morceaux de pierre, de restes de barricades brûlées. Tous les abribus ont été fracassés, des voitures incendiées, les vitrines du centre commercial brisées. Un déchaînement de violence qui a commencé en fin de matinée, quand les manifestants ont commencé à se rassembler pour un cortège autorisé. Un groupe d'ultra-radicaux, vous l'entendez, a alors commencé à semer le chaos sous les yeux de Bérangère et Bruno.
C'est parti comme ça d'un coup, on ne sait même pas pourquoi. Nous, on était dans un petit coin et on a vu que ça s'est... Il y avait des gaz partout.
C'est pas ce que j'espérais, mais je savais à 200% que ça allait se passer comme ça.
Pourquoi ?
Parce que tout était fermé aux alentours et forcément, tout le monde se recroqueville et forcément, ça pète.
Du coup, la manifestation autorisée est finalement interdite par les autorités et la situation va rester tendue plusieurs heures. Les affrontements se multiplient, les grenades de désencerclement répondent aux jets de pavés dans un nuage de gaz lacrymogène comme j'en ai rarement connu, Fabienne, et devant surtout l'incompréhension des manifestants pacifiques qui n'ont pas eu le droit de quitter la place.
Moi j'aimerais me manifester surtout, c'était le but premier de notre venue à tous quoi. Et là on est bloqué, on doit rester sur la place. Et quand on est sur la place, vous voyez, on nous gaze. Là je pense que c'est l'aboutissement de la négation de la liberté de manifester.
Alors deux scènes témoignent en tout cas de la violence des éléments radicaux de cet après-midi. Les pompiers d'abord, venus éteindre les barricades, ont été pris à partie et caillassés. Et puis surtout ces deux policiers poursuivis par des black blocs qui n'ont dû leur salut qu'à la porte ouverte d'une laverie dans laquelle ils ont pu se réfugier.
Théo Manval aux abords de la place d'Italie.
Alors à 15h, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a pris la parole pour expliquer sa stratégie par rapport aux manifestants les plus radicaux. Écoutez.
Il est en effet de ma responsabilité que les individus qui veulent détruire ne puissent se répandre à l'intérieur de Paris. J'ai donc décidé de fixer cette manifestation place d'Italie. Et les individus qui la composent seront progressivement interpellés. Et j'encourage ceux qui sont encore de bonne foi au sein de cette manifestation à en sortir le plus rapidement possible. Nous avons ouvert un couloir de sortie en direction de l'avenue d'Italie, qu'ils l'empruntent sans délai.
On le voit donc, le préfet de police de Paris assume clairement d'avoir fixé, comme il dit, les plus radicalisés qui voulaient en découdre avec les forces de l'ordre sur la place d'Italie pour éviter qu'ils ne se déplacent dans Paris. Nous sommes avec Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Salomé, concrètement, comment tout cela s'est déroulé ?
Eh bien, d'après nos informations, il y avait à la mi-journée sur le point de départ de cette manifestation, l'une des deux déclarées et autorisées aujourd'hui, 5 équipages de la préfecture, une unité de CRS et un canon à eau. L'essentiel des moyens mobilisés était concentré autour des Champs-Élysées, le point théoriquement le plus sensible. Or, tous les ultras se sont donc retrouvés place d'Italie. Il y a eu les premières violences, un début de saccage, puis la manifestation a été donc interdite sur décision du préfet et la place entièrement bouclée. D'après les estimations des services spécialisés, il y avait là, en plus des manifestants classiques, quelques 400 ultras jaunes, ces gilets jaunes les plus virulents, et une centaine de membres de l'ultra-gauche. Après 3 heures d'usure et d'affrontements sporadiques dans un air saturé de lacrymogènes, comme l'a décrit Théo à l'instant, le bilan des interpellations est de, à l'instant, 113 interpellations cet après-midi. Et nous aurons tout à l'heure dans la soirée le nombre de gardes à vue qui en ont suivi.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1 qui nous dit donc à l'instant 113 personnes interpellées à Paris et notre reporter Jean-Gabriel Bourgeois qui nous signale une manifestation sauvage aux abords des Tuileries avec un cortège de 200 à 300 personnes.
Oui, comment les forces de l'ordre ont-elles géré ces manœuvres alors que nous avons d'autres tensions dans le quartier des Halles à Paris ? Nous en parlerons dans un instant avec le secrétaire général d'unité SGP Police, Force Ouvrière, Yves Lefebvre, l'un de nos invités dans ce grand journal. Situation à Paris d'un côté. C'est fait. Maintenant, direction Nantes, Fabienne Lemoyle, pour voir comment la mobilisation des Gilets jaunes se traduit en région, pour le coup, pour ce premier anniversaire.
Eh bien, Nantes, ça a pris la forme d'une manifestation qui s'est globalement déroulée dans le calme, avant une dispersion marquée par des heurts. Un cortège que vous avez suivi pour Europe 1, Renan Coquelin, et on peut dire que les Gilets jaunes avaient répondu présent.
Oui, effectivement, ils étaient autant qu'il y a un an lors de la première mobilisation. Ici à Nantes, le rendez-vous était donné en début d'après-midi, place du Commerce, en plein centre-ville. Les banderoles et les slogans criés à tue-tête sont les mêmes depuis 12 mois, car rien n'a changé, raconte Brigitte, toujours très en colère.
Quand est-ce que les démocrates de ce pays vont se réveiller ? Quand est-ce que les intellectuels vont se réveiller ? Les gens crèvent ! J'en peux plus, moi.
Émotion très vive dans le cortège, encadré par un nombre important de forces de l'ordre qui contenaient la manifestation par des tirs de grenades lacrymogènes. Claire Gilet jaune de la première heure est heureuse de voir que le mouvement arrive encore à mobiliser. Seule déception, elle espérait une convergence des luttes.
Un peu déçue que les syndicats, les étudiants ne soient pas présents, mais j'espère que du coup ils sont effectivement sur Paris. Mais en tout cas, on est là.
2 heures plus tard, la situation a commencé à se tendre lorsque la manifestation est revenue à son point de départ, c'est-à-dire en plein centre-ville de Nantes. On a vu des murs tagués, des feux de poubelle et des panneaux publicitaires saccagés. Par précaution, quelques commerçants ont baissé les rideaux de leurs magasins. Le cortège s'est ensuite peu à peu dispersé sous de nombreux tirs de grenades lacrymogènes.
Renan Coquelin, à Nantes pour Europe 1, notait qu'à Montpellier, ils étaient plus de 1500 à défiler et que la vitre d'une permanence du député La République En Marche, Patrick Vignal, a été brisée et la façade taguée.
Europe 1, 18h07, la suite du journal. Fabienne Lemoyle, Wendy Bouchard.
À la une, toujours 145 000 foyers privés d'électricité en début d'après-midi en région Rhône-Alpes après les chutes de neige de jeudi dernier.
Et sur le terrain, près de 2000 agents de NIDIS qui sont mobilisés pour rétablir au plus vite le courant. Olivier Jarret, responsable en Auvergne-Rhône-Alpes, vient de faire le point avec Sophie Echen.
On a eu des difficultés assez importantes dans un premier temps pour pouvoir accéder aux ouvrages pour faire les premières manœuvres. Beaucoup de routes, notamment dans des secteurs accidentés comme en Ardèche, qui étaient soit coupées par la neige, soit coupées par des arbres qui étaient tombés sur la route. Ce qui a un petit peu rendu délicat nos premières interventions. Ce soir, on n'a pas fait la dernière situation, mais on va être à peu près à 70% des clients qui ont été réalimentés. On fait le maximum pour rétablir un maximum de clients dimanche soir, mais il restera encore des poches non alimentées. À l'heure actuelle, on a des dégâts très importants et on n'a pas de vision précise pour dire à quelle date exactement tous les clients seront réalimentés.
Et puis notez aussi le trafic SNCF toujours perturbé dans la région. La ligne TER Valence-Grenoble interrompue jusqu'à mardi. Celle entre Lyon et Grenoble jusqu'à lundi. Et pour Valence-Gap, le trafic devrait être rétabli demain.
On l'entendait un tout petit peu en préambule de ce journal quand la musique classique nous interpelle sur le réchauffement climatique. Et bien ce sera le cas ce soir lors d'un concert à la Philharmonie de l'Elbe à Hambourg en Allemagne.
Et bien oui, imaginez Wendy les quatre saisons de Vivaldi revisitées pour nous sensibiliser au dérèglement climatique. Ou plutôt tendez l'oreille aux explications de Thierry Geffrotin.
Voilà comment Vivaldi a mis le printemps en musique. Dans la version actualisée, le contraste entre le printemps et l'été s'estompe. Les notes imitant le chant des oiseaux ont disparu et les passages harmonieux deviennent chaotiques. Ces nouvelles quatre saisons, on les doit à une équipe composée d'informaticiens et d'arrangeurs musicaux. Un travail minutieux mêlant l'art et la science. Les données climatiques ont été fournies par des instituts de recherche et des agences de l'environnement. La nouvelle partition prend donc en compte l'augmentation de la température mondiale, la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes et leurs conséquences, notamment l'extinction de certaines espèces d'oiseaux et d'insectes. En 1725, Vivaldi avait joint à sa partition des poèmes qu'il avait écrits lui-même et qui décrivaient la nature, ce qui donnait par exemple « Voici le printemps que les oiseaux saluent d'un chant joyeux ». Les quatre saisons 2019 sont nettement moins bucoliques.
Thierry Geffrotin.
C'était le journal de Fabienne Lemoyle qu'on le retrouve demain pour la présentation du journal de midi. Merci beaucoup Fabienne, à demain.
Bonne fin de journée avec nous sur Europe 1, il est 18h10.
Voici le ciel, chère Valérie Darmon, bonsoir.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
On pense en particulier à tous ceux qui habitent dans les départements en alerte. Deux départements en alerte orange, pluie et inondation, dans le sud-ouest et un pour crue, on les rappelle.
Eh oui, alors toujours les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, pour forte pluie. Et le Gers en vigie crue, il pleut au sud d'Aquitaine depuis ce matin, avec un renforcement de ces averses au fil de l'après-midi, comme annoncé ce matin d'ailleurs. Alors ces fortes précipitations vont se maintenir jusqu'en seconde partie de nuit, au rythme tout de même de cumul atteignant parfois 10 à 15 mm. Par heure pendant plusieurs heures. Les pluies qui faibliront donc progressivement en fin de nuit. Et le long du littoral, les forts déferlements de vagues risquent d'engendrer aussi des risques de submersion sur les parties exposées. Donc prudence si vous devez circuler sur le littoral.
Ça se calme demain un peu ?
Oui, globalement, oui. Vous retrouverez quelques éclaircies des Hauts-de-France à la vallée du Rhône en passant par Paris. Il pleuvra moins sur la façade ouest, mais il neigera en revanche à basse altitude entre l'Alsace, l'est de la Lorraine, le Jura, Rhône-Alpes d'ici demain soir. Donc on n'est pas à l'abri de nouvelles vigilances orange neige cette fois. Alors le redoux pluvieux est annoncé en milieu de semaine prochaine. D'ici là, on continue d'avoir froid. On est sur des températures dignes d'un mois de janvier. Et donc les maximales demain vont rester stationnaires par rapport à aujourd'hui, entre 3 à Épinal et 14 degrés à Perpignan.
Merci beaucoup. Si vous vous intéressez à la situation à Venise, sachez que le niveau d'alerte météo a été légèrement revu à la baisse aujourd'hui. Situation d'Aqua Alta, on vous le rappelle, avec un compte bancaire ouvert pour venir en aide à la cité des Doges. Voilà, ça a été annoncé il y a quelques minutes par le maire de Venise. Merci. Valérie, à tout à l'heure.
Oui, on fera un point dans un petit peu moins de 20 minutes. À suivre, Wanny Bouchard.
À suivre un samedi encore éprouvant pour les pompiers, pour les forces de l'ordre à Paris. Le message des gilets jaunes pourris par les casseurs, des violences fixées place d'Italie. On reparle de tout ça avec Yves Lefebvre, notre invité, dans un instant.
Europe 1, le grand journal du soir.
Wendy Bouchard.
Il est 18h14, la suite du Grand Journal du Soir sur Europe 1, c'est avec vous Annie Bouchard et avec un nouveau samedi de tension à Paris alors que les manifestations des Gilets jaunes un an après furent calmes en région.
Avec définitivement ce bloc des radicaux, des casseurs qui s'est encore cristallisé à Paris, place d'Italie, on en parlait avec nos envoyés spéciaux, avec cette manœuvre qu'a bien expliqué cet après-midi le préfet de police Didier Lallemand. Bonsoir Yves Lefebvre.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Je rappelle que vous êtes le premier syndicat de la police nationale. Manifestation fixée délibérément place d'Italie pour prendre finalement ces individus violents dans une nasse. C'est une réussite pour vous ce soir ?
Oui, c'est une réussite. Bon, on va pouvoir parler de réussite complète à l'issue, je dirais, de la neutralisation des groupes qui se sont un peu disséminés dans les rues de Paris. Mais globalement, effectivement, place d'Italie, on peut considérer que ce fut une réussite. C'est ce que nous demandions le lendemain du fiasco du 1er décembre l'année dernière. On demandait à ce qu'on ait beaucoup plus de réactivité, beaucoup plus de mobilité et que, effectivement, les fameux groupes dits braves aujourd'hui puissent procéder à des interpellations, je dirais, en ayant la couverture des forces mobiles que sont les CRS ou les, ou les escadrons de gendarmerie ou les compagnies d'intervention parisiennes. Donc oui, on peut considérer que ce fut une réussite aujourd'hui.
Ça signifie que tout était structuré, pensé et qu'il fallait bien circonscrire ces violences et ces casseurs pour ne pas qu'ils se dispersent. On rappelle le chiffre que nous donnait Salomé Legrand à 18h, 113 interpellations et une communication très rapide du préfet à 15h pour tenir la population comme informée de la situation. On gère la situation, vous voyez, cher Parisien, c'était un peu ça ?
Oui, c'était un peu ça, mais il était peut-être temps. Vous savez, on a eu pour habitude, et naturellement vous les médias, parce que vous n'aviez pas d'interlocuteur. On a reproché, moi je continue à reprocher jusqu'à aujourd'hui, au ministère de l'Intérieur, et qui plus est au préfet de police de Paris, de ne pas communiquer. C'était les syndicats, et dont le mien bien évidemment, qui servaient entre guillemets à expliquer ce qui se passait. Enfin, le préfet de police est monté au front, a expliqué dans des mots forts, que moi je souligne et que j'approuve, qu'effectivement il fallait procéder à des interpellations. Il a mis en place, je dirais, un goulot d'extraction de ceux qui n'étaient pas là délibérément pour casser. Bon, certes, ça a permis l'exfiltration de certains casseurs, et on le voit encore dans les rues de Paris aujourd'hui, mais il fallait bien trouver une solution, je dirais, pour exfiltrer les gens qui prétendaient manifester pacifiquement. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est pas sur Paris, c'est pas une manif de gilets jaunes. C'est une manif de casseurs, de black bloc, de voyous, bref, de quasi-criminels.
D'où la fermeté, la fermeté du préfet de police et de ses mots. Il a parlé de la débilité des acteurs qui, de toute façon, seraient interpellés. Ça, on est bien d'accord aussi sur le sujet, qu'ils aient porté des cagoules, des foulards ou pas. Tous ceux qui étaient place d'Italie, qui ont commis ces actes, ces exactions, et je pense aux violences vis-à-vis des forces de l'ordre et des pompiers, seront interpellés ce soir.
Ils seront interpellés ce soir, oui, je l'espère, un grand nombre. Maintenant, reste à savoir quelle sera la réponse de la justice par rapport à tout ça. Vous savez, j'ai entendu Didier Lallement cet après-midi, bon, ces mots, je les souligne, mais je l'ai senti un peu quand même, je dirais, dans une certaine, que je pourrais qualifier quasi d'un quasi-optimisme quand il dit que derrière, ils seront sanctionnés. Oui. Ça ne relève pas du préfet de police de Paris, ça relève de la justice. Espérons effectivement que la réponse pénale sera à la hauteur des violences ou des tentatives de violence qui auraient pu être commises.
Alors évidemment, ce 53e épisode des Gilets jaunes crée de la lassitude de tous les côtés, avec une stratégie qui a pu laisser certains pantois. Et je pense, Yves Lefebvre, ce soir au maire du 13e arrondissement. Il a communiqué sur Twitter, sa mairie a été caillassée place d'Italie. Jérôme Coumet, voilà, c'est son nom. Quelle tristesse, quelle solidarité avec les pompiers ce soir. Mais pourquoi avoir autorisé une manif place d'Italie malgré mes alertes, dit-il, alors que s'y déroulaient trois chantiers importants. Et on a vu qu'on avait quand même presque fourni du matériel pour se défouler à ces casseurs.
C'est sûr, c'est vrai que le lieu, mais vous savez, c'est vrai qu'au départ, on nous a fait aussi le reproche, enfin, on a fait le reproche, pas aux syndicalistes ni aux forces de l'ordre qui ont été sur le terrain, je dirais, avec bravoure, courage et détermination aujourd'hui. On a fait le reproche, effectivement, de peut-être pas avoir mis suffisamment d'effectifs, mais la porte d'Italie devait être effectivement le point de départ. Et ensuite, la mobilité, la capacité à se mouvoir dans l'espace des forces de l'ordre ont permis de pallier à ça. Je pense, effectivement, je peux comprendre la colère du maire du 13e arrondissement, mais je pense qu'on aurait la même colère aujourd'hui sur un autre arrondissement si, effectivement, notre point de départ avait été déterminé. Le problème, c'est qu'on sait tous et toutes qu'aujourd'hui, Paris est un grand chantier, parfois de rénovation ou d'aménagement, et qu'effectivement, ils ont de la matière à avoir de la réserve naturelle, notamment à travers les pavés ou les barrières, hein, bien évidemment.
Oui, dommage collatéraux qui était peut-être le prix à payer ce soir. Un mot encore, Yves Lefebvre, de la manière dont se sont sentis les équipes, vos hommes sur place. Vous avez eu toutes les remontées de terrain depuis ce matin. Toujours des caillassages, toujours des prises à partie, des images très fortes. Les policiers défendant au bouclier des pompiers qui sont en train d'intervenir pour éteindre un incendie. Vous retenez tout ça et quelle philosophie, quel état d'esprit de vos hommes ce soir ?
La philosophie, c'est de se dire, est-ce que ça ne va pas recommencer aujourd'hui ? Est-ce que ça ne va pas recommencer ? Est-ce qu'on ne va pas partir sur un 54e acte ? Est-ce qu'on ne va pas voir, je dirais, ressurgir la violence comme on l'a connue jusqu'au 1er mai de cette année ? C'est ça la fatigue du policier, c'est la lassitude du policier. Et puis de se dire à un moment donné aussi, parce que cette semaine, on a quand même un procès qui est important. On a le procès jeudi de mon collègue du ACRS 27 de Toulouse pour avoir lancé un pavé sans dégâts, sans victimes et bien évidemment par le fait sans plaignant. Et c'est là, si vous voulez, la défiance de ressenti par les forces de l'ordre aujourd'hui qui ont fait leur travail d'une façon admirable. Et moi, je tiens à avoir aussi une pensée pour mes deux collègues qui ont été retranchés dans une laverie. Je crois que ces images qui commencent à faire le tour de la toile médiatique...
Qui ont été obligés d'appeler à la rescousse d'autres
collègues. Franchement, on voit qu'on a une horde d'individus qui veulent les passer à tabac, sinon même peut-être pire. Mais mes collègues, dans ce moment-là, étaient en légitime défense et mes collègues ont préféré se retrancher rester à l'intérieur au risque de se faire, je dirais, mettre à mal, voire même peut-être au pire, tuer sans faire usage de leur armement létal. Et c'est ça, c'est vraiment là la détermination, tout le professionnalisme des policiers est incarné à travers l'attitude de mes deux collègues cet après-midi, au-delà bien évidemment de tout ce qui a été fait de façon remarquable, avec des millions d'heures à récupérer, avec une mauvaise protection de la justice, et encore, permettez-moi de profiter de votre antenne, encore un manque de reconnaissance à certains points de notre ministère de tutelle.
Merci Yves Lefebvre pour ces mots ce soir, qualité de secrétaire général, unité SGP, police FO sur l'antenne d'Europe 1. Merci.
18h21, le grand journal du soir, c'est aussi l'actu des sports, Wendy.
Elle arrive avec Jean-François Pérez au programme du foot et du rugby, bien sûr, et puis la fin du glyphosate dans les 2 ans. Cette promesse sera-t-elle vraiment tenue? Eh bien, on va refaire l'actu sur Europe 1 avec nos invités.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Wendy Bouchard sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir.
Voici l'actualité du sport avec Jean-François Pérez. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, on vous
écoute. Le foot au féminin avec le choc Lyon-PSG, au masculin avec les Bleus.
Intéressant, on l'espère.
À Tirana et Benzema qui voit rouge, le rugby et Clermont qui retrouve la grande Coupe d'Europe et puis une légende ce soir face aux auditeurs d'Europe 1.
Beaucoup de directs ce soir. On parle donc tout d'abord du foot au féminin, Jean-François.
Depuis 17h30, l'Olympique lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain. C'est devenu le choc, le classique de D1 entre deux équipes de plus en plus proches sportivement et qui sont à égalité en tête du classement. Le tout devant une foule record au Parc OL. Bonsoir Maxime Schoch.
Bonsoir Jean-François, bonsoir Wendy, bonsoir tout le monde.
C'est la mi-temps et c'est serré.
C'est la mi-temps, c'est serré au niveau du score, 0-0, vous le disiez, devant 33 spectateurs ici au Groupama Stadium.
C'est encore
donc battu. Et bien pour le moment, c'est les Lyonnaises qui dominent clairement ce match. Elles se sont procurées les meilleures occasions, à l'image notamment de cette occasion à la 30e minute pour Ada Egerberg, l'attaquante vedette lyonnaise, mais qui était trop courte du bout du pied au point de pénalty pour tromper Endler, la gardienne parisienne. Et puis notez la sortie de Eugénie Le Sommer à la 33e minute, remplacée par Delphine Cascarino pour Lyon.
0-0 donc à la mi-temps, on se retrouve d'ici 3 quarts d'heure environ pour faire un nouveau point et la fin de ce match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain.
Le foot masculin, cette fois l'équipe de France est arrivée à Tirana avec une mauvaise nouvelle.
Oui, le forfait de Kingsley Coman, victime d'une blessure musculaire, une de plus pour ce joueur très fragile. L'attaquant est reparti dans son club à Munich. Pour le reste, conférence de presse et entraînement dans le stade flambant neuf de Tirana et une revanche attendue pour des Bleus décevants face à la Moldavie jeudi, notamment les 4 de devant et notamment Kylian Mbappé, recadré en douceur mais avec fermeté quand même par son capitaine Raphaël Varane.
Il pouvait faire mieux, il le sait. Il a la capacité d'aller très vite, de créer des décalages, de jouer avec ses coéquipiers. Et ce qu'il faut, c'est justement qu'il réussisse à avoir du lien avec ses coéquipiers. C'est ce qu'il aurait peut-être pu mieux faire sur le dernier match. Il peut encore progresser, c'est un jeune joueur et on attend beaucoup, beaucoup de lui. Il a tellement de qualité que des fois, il doit choisir parce qu'il ne peut pas tout faire en même temps.
Voilà, c'est clair. Raphaël Varane avec Cyril de la Morinerie. Albanie-France, c'est demain soir 20h45. Un match que vous ne suivrez pas de Tirana sur Europe 1. Pourquoi ? Eh bien parce que la Fédération albanaise a réclamé à notre radio et à d'autres radios françaises une somme inacceptable pour retransmettre le match.
Ah oui.
N'ayez crainte, on vous prépare tout de même une très belle soirée de foot. Vous ne raterez rien.
Merci.
Et puis sachez que le torchon brûle entre Noël Le Graët et Karim Benzema. L'aventure est terminée pour lui avec l'équipe de France, a dit en substance le président du foot français à nos confrères de RMC. Réponse de l'avant-centre du Real Madrid sur les réseaux sociaux. C'est moi qui mettrai un terme à ma carrière internationale. Laissez-moi jouer pour un des pays pour lesquels je suis éligible et nous verrons. Les pays en question, c'est l'Algérie ou l'Espagne. Mmh. Voilà qui risque de faire couler beaucoup d'encre, même si, selon les règlements, il n'a strictement aucun droit pour jouer pour un autre pays.
D'accord. Le rugby, désormais à la une, avec la première journée de Coupe d'Europe, Jean-François.
Et les choses qui ont bien commencé pour les clubs français hier soir, puisque Toulouse s'était imposé à Gloucester 25-20. Cet après-midi, par contre, c'est beaucoup moins bien pour La Rochelle, qui a été défait par Exeter 31-5. Clermont accueille les Anglais des Harlequins à 18h30. Le club auvergnat vainqueur de la petite Coupe d'Europe la saison passée, et qui revient dans la grande, un trophée qui manque à son palmarès. Bonsoir Damien Tardieu.
Bonsoir Jean-François, bonsoir tout le monde.
Ambiance à 5 minutes du coup d'envoi, apparemment c'est survolté déjà. Mm-hmm.
Oui, il y a un stade Marcel Michelin qui comme souvent sera quasiment plein parce que depuis le 1er avril 2018, 19 mois, clairement on n'a pas joué de match de la grande Coupe d'Europe. C'est une éternité hein, pour l'ASM, 3 fois finaliste ces 6 dernières années. Inutile de dire que les Auvergnats ont les crocs avant ce premier match. Les crocs, mais surtout une obligation de résultat dans une poule homogène où l'Ulster s'est imposé à Bath tout à l'heure. Clermont doit lancer idéalement cette saison en Coupe d'Europe en face des Harlequins qui leur avaient donné beaucoup de fil à retordre l'an passé en demi-finale de la Challenge Cup. Coup d'envoi dans 3 minutes ici au Michelin.
Clermont face aux Harlequins. Merci Damien, à tout à l'heure.
Et l'autre événement rugby du soir à suivre avec vous à partir de 20h. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Wendy.
Une légende du rugby est avec vous, monsieur Serge Blanco.
Face aux auditrices et aux auditeurs d'Europe 1, à partir de 20h, Serge Blanco, pendant une heure, va tout dire. Il n'élude aucune question, même au sujet de Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, dont il est un opposant. Oui. Pendant la perspective des futures élections, il dit qu'avec lui, le rugby français est en danger. Un rugby qu'il ne reconnaît pas, dit-il également. Ce n'est pas le même sport que j'ai joué il y a quelques années. Et il avoue également que l'équipe de France a échoué dans sa Coupe du Monde avec donc une remise en question de ses bleus et un nouveau sélectionneur, vous le savez, Fabien Galthié, qui vient d'arriver à la tête de l'équipe de France en tant que numéro 1.
Échange sans langue de bois, suivre avec Serge Blanco face aux auditeurs. Merci Lionel Rousseau, à tout à l'heure. On termine Jean-François avec du tennis en bref.
Absolument, c'est fini pour Roger Federer au Masters à Londres. La légende suisse qui avait pourtant dominé Novak Djokovic s'est incliné 6-3, 6-4 face au grec Stefano Tsitsipas qui est qualifié pour la finale du coup. Et ce sera face au vainqueur de l'autre demi-finale entre l'Allemand Zverev et l'Autrichien Dominic Thiem.
À tout à l'heure, 19h sur Europe 1.
À suivre les grands titres de l'info de ce samedi, les couleurs du ciel avec Valérie Darmon et puis on refait l'actu, Wendy.
Difficile de s'y retrouver dans le débat sur le glyphosate. Le président de la mission de suivi et la présidente de la FNSEA réagissent ce soir sur Europe 1.
Il est 18h30 et vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Si vous nous rejoignez, voici l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Une journée de tension pour marquer le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Des casseurs ont investi la place d'Italie à Paris. Des véhicules et des poubelles ont été incendiés. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. Le préfet de Paris a pris la parole dans l'après-midi et a promis une réponse ferme. 113 personnes ont été interpellées dans la capitale. Ce soir, c'est dans le quartier des Halles à Paris que se concentrent les tensions. Des tensions également en région à Lyon, Bordeaux, Nantes et Montpellier où un policier a été blessé et la permanence d'un député La République En Marche prise pour cible. Les agents d'Enedis rétablissent peu à peu le courant en Rhône-Alpes après les importantes chutes de neige de la nuit de jeudi à vendredi. 145 000 foyers étaient toujours privés d'électricité à la mi-journée. À Hong Kong, le retour au calme après une semaine chaotique. L'armée chinoise a participé aujourd'hui au nettoyage des rues. Une présence spontanée et symbolique, les militaires n'ont pas été sollicité par le gouvernement. Et puis il avait été révélé au grand public avec Au Mon Bateau. Éric Morena est décédé aujourd'hui des suites d'un cancer. Son titre, resté 4 mois au top 50 à la fin des années 80, avait été vendu à 1 million d'exemplaires. Éric Morena avait 68 ans.
Merci Sophie, à tout à l'heure 19h pour le journal. On va surveiller 3 départements pour pluie et inondation, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Valérie Darmon, pour la vigilance orange crue, le Gers. Ailleurs, le temps demain restera humide, froid
et
aussi.
Froid surtout, effectivement. Alors de l'Alsace au Jura et à Rhône-Alpes, le ciel va se couvrir en matinée. Il va même neiger à très basse altitude avant midi, dès 300 mètres d'altitude sur le sud des Vosges et de l'Alsace, voire en plaine. Les quantités sont faibles, mais elles blanchissent tout de même les sols. Sur les Alpes du Nord et les Préalpes, vers 500 mètres, on attend encore 5 à 10 cm de neige, un petit peu plus en altitude. Et à l'opposé, le temps qui reste pluvieux au sud de la Garonne, moins qu'aujourd'hui tout de même, donc les averses seront moins nombreuses. Et puis la limite pluie-neige qui va remonter un peu sur les Pyrénées. Et sur le reste du pays, de toute façon, c'est grisaille pour tout le monde. Un petit peu moins peut-être depuis le bassin parisien jusqu'à la vallée du Rhône. Voilà, les températures, je vous en dis un mot tout de même, c'est à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. 8 à Paris, à Lille, à Lyon et au Mans.
Valérie Darmon.
Merci d'avoir choisi Europe 1. On refait l'actu à présent avec le glyphosate, de nouveau à la une cette semaine.
Et les députés chargés d'un rapport sur la suppression de cet herbicide bon marché qui ont remis leurs premières conclusions mercredi. Ils estiment que la fin de son utilisation aura un coût plus élevé que prévu pour les agriculteurs. On refait ce soir sur Europe 1 l'actu avec Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Bonsoir madame.
Bonsoir.
En compagnie également de Julien Dive, député de l'Aisne, président de la mission sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate, fameuse mission. À ce jour, Julien Dive, que constatez-vous ?
Alors, bonsoir à tous. Moi, le premier point que l'on fait aujourd'hui, à un an d'étape, c'est qu'il y a clairement un raté dans la clarté, dans la visibilité de la stratégie. On est à un an de l'échéance, quasiment. Aujourd'hui, ne sont pas identifiés l'ensemble des filières qui seront prêtes à sortir en 2021. Et on doit donner de la visibilité à toute une filière sur la manière dans laquelle elle va pouvoir se plonger demain sans cet herbicide. Et la France est un des utilisateurs, notamment dans le monde agricole, qui est le moins consommateur de cet herbicide en Europe et dans le monde. Enfin, faut quand même aussi rappeler qu'on importe des produits qui viennent d'Amérique du Sud et d'ailleurs, sur lesquels est aspergé du glyphosate directement parce que ce sont des produits OGM et résistants, alors qu'en France, le glyphosate n'est jamais, n'est pas du tout aspergé sur un produit agricole, sur des céréales ou autres. Donc tout ça sont des postulats qu'il faut repositionner pour avoir un débat serein dans lesquels il y a besoin de remettre de la raison et éviter encore une fois de pointer du doigt les agriculteurs.
Vous pointez du doigt, Julien Dive, avec les députés rapporteurs de ces textes, Christiane Lambert, les coûts supplémentaires parce que plus de glyphosate, ça veut dire un travail mécanique qui viendra remplacer le travail chimique de l'herbicide demain, donc plus ou moins court terme.
C'est ça. Et le rapport précise bien que cela occasionnera des coûts substantiels. Et le coût total pour la filière céréalière française, c'est 950 millions d'euros. Alors j'ai entendu dire que pour la SNCF, ça serait aussi 10 fois plus cher que les pratiques actuelles. Mais à la SNCF, c'est assez simple, ils vont augmenter le prix des billets unilatéralement. Pour les producteurs de céréales, ils ne pourront pas dire le lendemain matin « je vais augmenter mon blé de temps pour pouvoir couvrir mes charges de désherbage » parce que sinon, les Russes vont bien rigoler de la France en disant « nous, on a du blé moins cher et on va le vendre sur les marchés qui sont les vôtres ».
Ça veut dire que vous attendez quoi de la part du gouvernement? Des mesures d'accompagnement pour chaque exploitation concernée, en tout cas par l'arrêt du glyphosate, à l'horizon 2021?
Allez, objectivement, avec l'état des finances françaises, pensez-vous qu'ils sont prêts à débourser 950 millions d'euros pour la filière céréalière?
J'entends bien, donc ce sera forcément à la charge de ces agriculteurs.
Et est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons? Je crois que le gouvernement français s'est mis dans une impasse.
On aimerait bien savoir, Julien Dive, quel est l'avenir en réalité. Il y a quelques jours, la députée La République En Marche, d'Ille-et-Vilaine, votre collègue Laurence Maillard-Méhaignerie, membre de cette mission d'information, qui dit « la sortie du glyphosate, promesse du président, sera bien tenue à l'horizon 2021 ». Vous semblez en douter. On croit qui aujourd'hui? Nous, auditeurs, citoyens et peut-être proches d'agriculteurs?
Moi, pour le coup, je ne fais pas partie de la majorité. Donc déjà, je peux me désolidariser des propos de ma collègue. C'était cette date de 2021 qui est sortie par le biais d'un tweet du président de la République, un peu à la Trump, a été un moyen aussi de séduire peut-être un électorat, ou en tout cas de chercher à toucher une population. Mais quand on fait ce genre de déclaration, on doit les préparer en amont. Il existe des alternatives, mais très onéreuses. Hier, j'étais à l'INRA. Dans les Hauts-de-France. Il me montrait une alternative qui est de la charrue avec une bineuse de céréales. Ça vaut 70 000 euros, plus des passages qui sont beaucoup plus nombreux qu'un seul passage d'herbicide. Vous voyez, en fait, le coût est vraiment important. Et comme le disait justement à l'instant Christiane Lambert, je ne suis pas certain que le gouvernement soit prêt à débourser autant de moyens financiers pour accompagner la filière.
D'accord, vous parlez de coûts, l'un et l'autre, Julien Dive et Christiane Lambert. Je rappelle quand même aux auditeurs que ce produit est potentiellement cancérogène et qu'il y a un coût dont on peut parler quand même aujourd'hui, c'est celui de la santé aussi des agriculteurs engagés. Est-ce que ce coût élevé aujourd'hui ne mérite pas d'être payé pour la santé de chacun, des humains et des terres en particulier?
Il y a controverse sur la dangerosité ou pas du glyphosate, mais ce n'était pas l'objet de ce rapport. Ce rapport, il vise à répondre à une ambition politique. Le président de la République a pris une décision
sous-tendue
politique, éloignée de certains débats scientifiques. Il est dit aussi dans le rapport que parfois le remplacement du glyphosate se fera par des produits au profit de l'écotoxicologie plus problématique. Mais moi, je veux être pragmatique. Le président de la République lui-même, pendant le débat Gilets jaunes, a dit qu'il faudrait des dérogations en disant « si j'arrête sur certaines filières, je les mets en difficulté, en faillite, je ne peux pas ». Donc, quelles sont les filières qui nécessitent dérogation? Soyons pragmatiques. Est-ce que c'est 10, 15, 20, 30% de dérogation qu'il faut? Je crois que chaque fois qu'on peut réduire, on va réduire. Nous avons proposé un contrat de solution pour une trajectoire de progrès pour la protection des plantes. On cherche. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, ces coûts, normalement, ils devraient être supportés aussi par les consommateurs et les citoyens français. Si tout le monde veut qu'il y ait une agriculture plus vertueuse, ça ne peut pas reposer seulement sur l'épaule des agriculteurs.
Ça, vous avez tout à fait raison. Et c'est un discours politique qui devrait embrayer. Là, on rejoint les formules et les solutions que vous proposez aussi comme parlementaire, Julien Dive, mais que le coût soit partagé aussi avec les consommateurs que nous sommes, faudra-t-il une mission ou des textes ou bien davantage pour faire porter cette bonne parole?
Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, si on veut faire supporter le coût aux consommateurs, il faudra aussi, de ce point de vue-là, faire un effort. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'alimentation ne peut pas être un critère de discrimination sociale non plus. Ça ne peut pas être que les gens qui ont les moyens de pouvoir acheter des produits de haute qualité...
Dans une économie mondialisée, qui plus est.
Mais bien sûr. Au moment même, d'ailleurs, de manière incohérente, on va signer des traités internationaux qui permettent d'importer des produits développés dans des conditions douteuses ailleurs. ailleurs et qui sont ensuite importés en Europe.
Le Canada, avec lequel on vient de signer un accord, a réhomologué le glyphosate. C'est là où il y a problème. L'incohérence du gouvernement, c'est surtout de dire c'est dangereux en France, mais on peut importer des produits qui viennent d'ailleurs et qui en ont reçu. C'est
L'Autriche vient de l'interdire, hein, Christiane Lambert, si vous
connaissez l'exemple étranger. Oui, mais enfin, dans un contexte politique que 2021. Vous connaissez parfaitement, puisqu'il y a une alliance anachronique entre l'extrême droite et les Verts, avec un gouvernement de transition suite à la chute du gouvernement.
On peut se comparer par rapport à des pays comme l'Autriche ou l'Allemagne. L'Allemagne a fait une annonce aussi pour 2023, mais moi, je reste très vigilant par rapport à des pays comme l'Allemagne, puisque l'Allemagne est le pays le plus protectionniste qui existe en Europe. Il ne faudrait pas oublier que Bayer est un groupe allemand. Donc je suis persuadé quelque part qu'il y a déjà des solutions pires, je ne sais pas, qui sont développées par des industriels, alors qu'on a aujourd'hui des solutions qui existent et qui sont utilisées de manière précautionneuse. Des pays comme l'Amérique du Sud, c'est 15 fois plus, 10 à 15 fois plus de glyphosate que la France. Donc attention aussi à bien savoir se comparer et à ce qu'on veut. Aujourd'hui, on a une agriculture qui est de qualité en France. Je pense qu'il faut aussi arrêter de casser cette confiance qu'il doit y avoir entre les consommateurs et les producteurs.
En tout cas, pour revenir au rapport et à la mission de la semaine, Christiane Lambert, peut-être ce texte dépassionne un petit peu le débat et permet de mettre aussi en lumière les enjeux, le calendrier, ce qui est tenable et ce qui est raisonnable, ce qui peut se faire à plus ou moins long terme. Et ça, c'est important aux yeux de l'opinion publique aussi.
C'est très important d'expliquer avec pragmatisme que ça va coûter plus cher, c'est plus compliqué. Et l'État, le gouvernement, les différents ministères n'ont pas préparé les choses. Il faut au moins que ce soit une décision européenne. On est dans un marché unique. Nous sommes pro-européens. C'est libre circulation des biens et des services. S'il n'y a pas les mêmes règles au sein de l'Europe, c'est encore pire même que de voir qu'il n'y a pas les mêmes règles entre le Canada et l'Europe.
Donc de gros doutes sur l'échéance 2021 pour la sortie du glyphosate, à vous entendre tous les deux. Merci de vos échanges. Christiane Lambert de la FNSEA et Julien Dive, député et président de cette mission de suivi.
Merci à vous.
À suivre, Wendy Bouchard.
C'est l'interview découverte. Il nous a rejoint en studio. Jean-Pierre Guénot publie un livre magnifique sur De Gaulle à travers ses plus beaux manuscrits. Dans un climat social tendu qu'on vient de décrire, la référence a beaucoup, beaucoup de sens, évidemment. On l'écoutera avec attention.
18h43, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1. Merci de nous rejoindre pour l'interview découverte, la passion de l'histoire à l'honneur, Wendy Bouchard.
Ce n'est pas la première fois que nous partageons cette passion propre à beaucoup de Français, avec Laurent Decaux, avec Alberto Angela, le Stéphane Bern italien, et avec vous ce soir sur Europe 1. Bonsoir Jean-Pierre Guénot.
Bonsoir.
Votre nouvel ouvrage, on va en parler dans quelques instants, très beau livre aux éditions Hugo et compagnie, les plus beaux manuscrits du général de Gaulle. Mais pour ceux qui nous suivent sur Europe 1, j'ai eu le plaisir de vous recevoir l'an passé pour parler à la fois des lettres du Père Noël, dont vous fûtes pendant 7 ans le secrétaire personnel, des lettres de Poilu, des paroles de Postier, vous qui vous définissez comme un passeur de vie, au fond, et toujours.
Oui, tout à fait, et surtout à cette période où beaucoup de choses ont tendance à se dématérialiser, à subériser, il est important de se rattacher aux traces, aux pièces à conviction, et les manuscrits sont la plus belle trace qui soit. Je dis toujours que c'est pas demain la veille que vous pourrez transmettre le parfum de l'auteur d'une lettre d'amour par Internet.
C'est un matériel évidemment qui est une source magnifique d'observation pour vous, historien, qui se perd, hélas. Et lorsqu'on revisite toute la carrière du général de Gaulle, on sent une pudeur s'exprimer dans toutes ses correspondances, qu'il soit homme, qu'il soit général aussi.
C'est l'intime, c'est son fils, l'amiral Philippe de Gaulle, qui conseille de soulever la cuirasse. C'est ce que j'ai fait. Puis j'ai choisi un magnifique porte-parole, Yvonne de Gaulle, c'est elle qui nous guide tout au long, en s'adressant à son mari et donc en s'adressant au lecteur. Et ça, c'est quelque chose de fascinant. À 20 ans, Yvonne de Gaulle était d'une beauté à tomber par terre. On l'a injustement médiatisée alors que sa vie avait été quand même ravagée par beaucoup de souffrances. Et j'aime beaucoup la dernière photo qui a été prise d'elle lorsqu'elle était pensionnaire de sa petite maison de retraite dans le 7e arrondissement, parce que le cancer l'a fait fondre. Et on a retrouvé ses yeux de jeune fille.
Complètement, complètement.
Très, très émouvant.
Vous parlez des pages difficiles, douloureuses, terribles de la vie de Gaulle, en particulier la mort de leur fille Anne. À 20 ans, nous sommes en 1948, et il prend la plume une fois de plus pour écrire à la grande sœur, à Elisabeth, pour expliquer cette souffrance. Ça passe par l'écrit, encore une fois, et on retrouve ces manuscrits.
Et puis il y a toujours cette notion qui rappelle une autre anecdote de sa vie, c'est en 1946, quand cet homme qui a sauvé la France est Tricard, interdit de médias, il commence sa traversée du désert. Un de ses anciens compagnons d'armes, Michelet, qui est devenu ministre dans les nouveaux gouvernements, lui envoie un émissaire avec une lettre On essaye de l'acheter d'une certaine façon, de racheter les horreurs qu'on lui fait. On lui propose d'augmenter le nombre d'étoiles qui sont sur ses épaules et sur son képi. Il est mort avec 2 étoiles, il aurait pu mourir avec 5. Et là, il a une phrase magnifique du style « Il les envoie tous balader gentiment. Rassurez-vous, la mort se chargera bien de tout égaliser. » Et c'est ce même concept que l'on retrouve le jour de la mort de sa fille Anne.
Elle est désormais
la mort,
comme les autres.
Elle est désormais comme les autres.
Oui. De Gaulle qui vous inspire et qui nous inspire, un quatrième livre pour vous. Vous qui êtes, et vous le revendiquez, Jean-Pierre Guénot, un pur produit de la génération de Gaulle, avec ce verbe qu'on peut remettre à la une encore aujourd'hui, ce mot de la chienlit qui est tellement d'actualité. Il n'y a pas que celui-là, mais celui-ci en particulier.
Oui, puis deux choses très appréciables chez De Gaulle. La première chose, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui rassemblait. Le rôle d'un président, quand il a gagné la campagne électorale, c'est de rassembler. On a trop de présidents depuis 2 ou 3 générations de présidents qui clivent, qui opposent les retraités aux actifs, les jeunes aux vieux, les chômeurs aux actifs. C'est un petit peu dommage. Et puis la deuxième chose à propos de De Gaulle, c'est qu'il ne s'accrochait pas. À chaque fois qu'il s'est senti en porte-à-faux avec le peuple, eh bien, il a décroché. Et ça, ça mérite d'être rappelé.
Sur l'éthique du pouvoir, il donne toujours et encore beaucoup, beaucoup de leçons, le général de Gaulle. Je renvoie les auditeurs à la lecture notamment du dernier feuillet. Nous sommes en 1970, à l'aube de sa mort. Ces mémoires d'espoir qui resteront évidemment inachevées. Vous avez retrouvé ce manuscrit. Vous pouvez nous dire quels sont les derniers mots?
Eh bien, le matin de sa mort, c'est-à-dire le 9 novembre 70, de Gaulle fait ce qu'il fait tous les matins à Colombelles-les-Deux-Églises. Il répond à son courrier. Et il continue à écrire ses mémoires. Là, on est dans les mémoires d'espoir qui sont inachevées. Et voilà les derniers mots manuscrits qu'on a retrouvés sur son bureau, puisque le soir même, il est mort d'une attaque, de ce qu'on appelle un AVC aujourd'hui. Mais comment n'aurais-je pas appris que ce qui est salutaire à la nation ne va pas sans blâme dans l'opinion, ni sans perte dans l'élection.
C'est terriblement d'actualité.
C'est terriblement d'actualité. Et il y a tout un tas de choses très belles chez De Gaulle. Tout le monde a oublié qu'en 1942, quand Monseigneur Saliège, l'évêque de Toulouse, écrit pour prendre la défense des Juifs et fait lire à tous les prêtres de son diocèse une lettre qui prend la défense des Juifs. Tout le monde ignore que 2 mois et demi plus tôt, De Gaulle, très bien renseigné, lui envoie un émissaire, là encore, avec une lettre secrète, en lui disant « il faut réagir, parce que si personne ne réagit parmi les princes de l'Église, eh bien, ça laissera une tache indélébile sur la mémoire de l'Église catholique. » Les gens oublient ça, oublient. Et alors, Saliège fait prononcer ce discours. Le soir, Vichy demande à la Gestapo allemande d'aller l'arrêter.
Oui.
C'est incroyable.
Oui.
Les 2 officiers arrivent, caricature, chapeau, veste de cuir. Saliège est paraplégique. Il demande à son majordome de le dresser debout contre un mur, dans son plus bel habit. Et quand il rentre dans son bureau, les 2 gestapistes allemands, il leur dit « Messieurs, je vous attendais ». Là, l'officier qui dirige cette escouade le regarde de haut jusqu'en bas et ils sont ressortis sans l'arrêter.
Incroyable, ça c'est poignant, c'est à découvrir encore.
Compagnon de la Libération, Monseigneur Saliège. Alors aujourd'hui, c'est un anniversaire puisque
même.
Le 16 novembre 1940, à Brazzaville, alors qu'il ralliait la France combattante à travers nos colonies, c'est grâce à nos colonies qu'on a gagné la guerre. Les gens l'oublient beaucoup. Et grâce à tous ces gens qu'on rejette parfois, trop souvent aujourd'hui, eh bien, il crée l'Ordre national de la Libération, qui est un ordre fermé, ouvert donc le 16 novembre 1940, il y a 79 ans, fermé en 46. Il y a eu un peu plus de 1000 médaillés, parmi lesquels des étrangers très, très célèbres, comme Romain Gary, Churchill, quelques autres. Et puis, il reste 4 survivants aujourd'hui, qui ont 98 ou 99 ans, dont Daniel Cordier, l'ancien secrétaire de Jean Moulin. Vous vous rendez compte, 99 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'ils avaient 20 ans.
C'est incroyable.
Ils avaient 20 ans.
D'ailleurs, que l'amiral Philippe de Gaulle, le fils du général, est toujours vivant. Il a près de 98 ans aujourd'hui. Autre anniversaire, celui de la mort de Gaulle, qu'on a commémoré la semaine dernière. Il n'est pas un président, pas un responsable politique sans se faire l'héritier ou l'héritière de Gaulle. Emmanuel Macron, la semaine dernière, à cette occasion, a décrit d'ailleurs l'OTAN en état de mort cérébrale. Il y a toujours cette référence gaulliste ou gaullienne, quoi qu'on dise dans l'actualité, Jean-Pierre Guénot.
Oui, et puis alors surtout, il y a beaucoup de gens qui sont partisans d'un changement de constitution, ils sont amnésiques. Ils ont oublié ce qu'avait été la 3e et la 4e République avec une France ingouvernable. Elle n'est pas au bout de son programme, la constitution de 58. On est en train par moment de fracasser tout le travail parce qu'elle est inspirée par les travaux du Conseil national de la résistance.
Oui.
Tout le dévouement à la collectivité qu'on connaît aujourd'hui à travers nos services publics, c'est le fruit de 4 ans de travail pendant 4 ans de barbarie. C'est en fonction de la barbarie nazie et du monde qui risquait de se profiler. Alors, fin 41, De Gaulle fait un discours magnifique devant la communauté française réunie à Oxford. Il nous décrit les poisons d'aujourd'hui et il dit que tout le problème, ce sera de gagner la guerre. Ce sera la troisième mi-temps. Ça situe ça aujourd'hui. Et il dit que le vrai problème, ce sera d'arriver à faire que la matière ne triomphe pas sur l'esprit, que ce soit bel et bien l'esprit qui triomphe sur la matière. Vous vous rendez compte de l'actualité de ce propos, là encore.
Laissez-vous guider par les mots et par la narration qu'a imaginé Jean-Pierre Guénaud, notre invité, par Yvonne De Gaulle, de ses manuscrits, les plus beaux du général De Gaulle aux éditions Hugo et Images. Merci beaucoup, Jean-Pierre Guénaud. On a toujours plaisir à vous entendre et à regarder aussi vos différentes publications. C'est un éditeur que Fabien Lecoeuvre, qui vous suit, connaît bien. Vous avez publié votre Renault chez Hugo et Images.
Absolument, une très bonne maison d'édition.
Merci, cher Jean-Pierre Guénaud.
Merci à vous.
Restez quelques instants si vous voulez écouter un peu de Véronique Sanson, hein. À tout de suite, Yvan.
18h-20h, Wendy Bouchard vous informe sur Europe 1.
Vous écoutez le Grand Journal du Soir sur Europe 1, il est 18h54. Voici l'un de nos rendez-vous du week-end, la chronique musicale de Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Fabien.
Wendy, bonsoir à tous.
Avec une artiste immense, une voix puissante, aussi solaire que sa générosité est grande. Véronique Sanson, magnifique.
Une artiste, Véronique Sanson, qui triomphe sur scène dans tous les zéniths de France avec sa tournée Digne, Dingue, Donc. Voilà, depuis plusieurs mois et qui terminera l'année sur la scène de la salle Playel à Paris les 30 et 31 décembre prochains. Alors cette artiste à la voix unique dont la personnalité est révélée en 1972 déjà, forte, fragile, elle ne peut laisser personne indifférente évidemment. Et je dois dire qu'aujourd'hui on va voyager un petit peu dans sa drôle de vie.
Ben voilà, exactement. C'est ce qu'on attend avec des anecdotes à la clé, Fabien Lecoeuvre, et une musique de circonstance pour illustrer l'actualité météo. Tenez. Rien que de l'eau. Vous avez raison de dire combattante, forte et fragile, elle qui se relève d'un cancer de la gorge, Véronique Sanson.
Complètement. Et savez-vous, Wendy, pourquoi René Sanson et sa femme Colette ont prénommé leur fille Véronique?
Ah, ça va intéresser Jean-Pierre Guénaud.
Absolument. Alors tout simplement parce que tous les deux étaient des résistants de la première heure. Déjà, ses parents se sont d'ailleurs rencontrés au sein d'un réseau de renseignements de la résistance. Et après la guerre, ils se sont mariés et ont baptisé leurs deux filles avec des prénoms qui commençaient par la lettre V, le V de la victoire, bien sûr. Magnifique. Ainsi, Violaine, l'aînée, qui est née en 1947, et bien sûr, notre Véronique Sanson, qui a vu le jour le 24 avril 1949. Alors, pour la petite histoire, son père, René Sanson, reprend son métier d'avocat après la guerre.
Oui.
Il devient député et maire gaulliste du 13e arrondissement de la capitale.
Ça vous poursuit, hein.
Et oui, complètement. Et après la naissance de sa fille aînée, Violaine, René rêvait d'avoir un garçon, évidemment comme dans toutes les familles françaises. Mais hélas, une nouvelle fois, c'est une fille. Alors il donnera d'ailleurs, on va dire, une éducation très sévère à la petite Véronique, rigoureuse, presque masculine.
Voilà pourquoi elle s'affranchit et se rebelle, Véronique.
Besoin de personne pour choisir le chemin de ma vie. Besoin de personne pour pleurer quand il me renie.
Premier grand succès, besoin de personne de Véronique Sanson, Fabien.
Oui, et puis dans la vie de Véronique Sanson, il y aura une rencontre déterminante, bien sûr, qui se déroulera au milieu des années 60. Nous sommes en 1966, Véronique a 17 ans. Et comme toutes les jeunes filles de son âge, elle participe à des surprise parties, des booms. Elle rencontre alors des voisins, des copains, des amis de lycée. Et un jour, elle fait la connaissance d'un certain Michel Berger. Comme elle, c'est un fils de bonne famille. Il vit dans le 17e arrondissement de Paris, près du parc Monceau. Et elle vit rue Spontini, dans le 16e arrondissement. Alors comme Véronique, Michel est passionné de musique. Comme elle, il aime les rythmes venus d'ailleurs. tous ces points communs les réunissent et ils deviennent très très proches, très amis en tout cas. L'été suivant, Véronique et sa sœur Violaine partent en vacances en Espagne. Et puis sur la plage, elle rencontre François Bernheim, avec qui elle sympathise. Sa sœur Violaine en tombe même amoureuse. Et puis elle revoit bien sûr
François Bernheim,
le...
qui est un grand auteur.
Alors, mais François Bernheim est un immense et talentueux compositeur, auteur et directeur artistique, bien sûr. Et puis dans l'intervalle, le jeune Michel Berger est devenu directeur artistique au sein de Pathé Marconi. Et c'est là justement qu'il enregistrera les deux premiers disques 45 tours des deux sœurs Sanson et puis de François Bernheim, les fameux Roche-Martin. Voilà comment l'histoire dans la musique de Véronique Sanson va commencer.
De la complicité à l'histoire d'amour.
Ah, complètement, puisque Véronique et Michel se rapprochent de plus en plus. Ils ne se perdent pas de vue et tombent amoureux. Ils s'écrivent souvent et leurs lettres, pleines de romantisme, sont dignes d'ailleurs de la correspondance entre Georges Sand et Frédéric Chopin. Ils se font rire mutuellement, pleurent dans les mêmes, on va dire, dans les mêmes émotions et se surprennent l'un et l'autre. Bref, même leur graphologie, ils ont pratiquement la même écriture.
C'est magnifique.
Ça, c'est incroyable. Ça, c'est les amours absolument exceptionnels.
Les mots, encore les mots. Vous voyez, Jean-Pierre Guénaud, avec cette chanson magnifique. Amour.
Et je me demande si cet amour aura un lendemain. Quand je suis loin de lui, quand je suis.
Une chanson dédiée bien sûr à Michel Berger, puisque Véronique Sanson signe alors son premier contrat de disque grâce à Michel Berger, premier album qui sort le 20 mars 1972. Et pour Michel Berger, cette chanson évidemment amoureuse lui est complètement destinée.
Sauf qu'un jour, elle part acheter des cigarettes.
Ah voilà, au printemps 72, son premier album vient de sortir et Véronique rencontre par hasard le guitariste américain Stephen Stills du groupe Crosby, Stills and Nash bien sûr. Et Véronique le rencontre sur les Champs-Élysées. Et c'est un véritable coup de foudre. Le mixage de son deuxième album, De l'autre côté de mon rêve, avec Michel Berger, n'est pas encore terminé. Elle décide de tout plaquer pour partir rejoindre Stephen à New York. Et à l'automne 72, elle dit juste à Michel Berger qu'elle s'absente pour aller acheter des cigarettes. Elle ne reviendra jamais.
Mais ce qu'on sait moins, Fabien Lecoeuf, c'est qu'ils vont se retrouver en chanson, il y aura des correspondances magnifiques entre les deux, et qu'il lui écrira une chanson incroyable, donc il fera la musique plus précisément. Elle fit grand bruit à l'époque. Allah.
Non, Allah, à quoi te sert d'avoir un nom ? Pourquoi ce feu se tonnerre ? Au nom de quoi fais-tu la guerre ?
Polémique.
Et oui, peu de gens savent que cette chanson est une création entre Michel Berger et Véronique Sanson. Véronique qui signera les paroles et la musique, mais Michel Berger qui produira ce disque, évidemment influencé par tous les événements de l'époque, la folie de l'intégrisme déjà religieux à l'époque, puisque la chanson devait s'appeler Dieu et Allah. Et finalement, ils se concentreront uniquement sur Allah pour cette chanson.
Une drôle de vie en pointillé qu'on a retracé aujourd'hui, la sienne, la nôtre, parfois Véronique Sanson.
Si je sais que tu m'aimes la vie, me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts.
Avec tous ces duos aussi volatiles avec la nouvelle génération et sa tournée triomphale dans les Zéniths de France.
Absolument, et à Pléiel les 30 et 31 décembre à Paris.
Merci Fabien Lecoeuvre et merci d'être resté, cher Jean-Pierre Guénaud. À très bientôt. Voici l'info dans un instant.
Europe 1. Jusqu'à 20h, nous sommes avec Wendy Bouchard. C'est votre grand journal du soir sur Europe 1.
Avec Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Ah, il est 19h et 1 minute.
Je vis dans la misère, monsieur, et je suis bien content de retrouver ces gilets jaunes qui me soutiennent.
Les gilets jaunes dans les rues de France pour le premier anniversaire de leur mouvement. Moins de monde sur les ronds-points et des violences à Paris.
Et un début de polémique après les affrontements place d'Italie. Le maire du 13e arrondissement avait alerté sur les risques liés à une manifestation dans ce lieu.
En Rhône-Alpes, 48 heures après les importantes chutes de neige, des dizaines de milliers de foyers toujours privés d'électricité.
Bon, on commence un peu à avoir froid, quoi. Bon, ben, on essaye de faire avec les moyens du bord. Bon, c'est un peu dur, quoi.
Et puis en Guadeloupe, une opération de sensibilisation aux cyclones. Mieux les connaître, bien sûr, c'est mieux se protéger.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce samedi était donc le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, anniversaire marqué par une flambée de violence dans le cœur de Paris, Sophie.
Oui, des casseurs ont investi la place d'Italie, d'où devait partir une manifestation en début d'après-midi. La situation a rapidement dégénéré, Marion Gauthier.
Oui, tout a commencé en fin de matinée par des vitres brisées. Plusieurs dizaines de manifestants radicaux ont ensuite saccagé du mobilier urbain, brûlé des voitures. Dans l'après-midi, certains sont même allés à l'affrontement direct avec les forces de l'ordre. Antoine était dans ce groupe qui a forcé le cordon de sécurité et exhibé un bouclier de CRS comme trophée.
Notre système est violent. Cette violence elle touche des millions de personnes en France. Il y a de plus en plus de pauvres et se concentrer sur une violence matérielle, c'est ridicule quand à côté la violence est personnelle et physique et psychologique sur des millions de personnes.
Les affrontements ont duré plusieurs heures du fait de la stratégie des forces de l'ordre qui ne laissait sortir aucun manifestant de la place pour tenter d'interpeller un maximum de casseurs. Au jet de pavés a répondu une pluie de grenades lacrymogènes. Nathalie assure être pacifiste, elle dit sa colère d'avoir été assimilée aux éléments violents.
Depuis ce matin 9h, on est attaqué par des gaz, donc forcément ça provoque la colère. Mais au bout d'un an, c'est la frustration. On ne vit plus de nos salaires, on nous taxe de tous les côtés, alors qu'il y en a qui gagnent énormément d'argent et qui font de l'évasion fiscale.
Les manifestants se sont déplacés ce soir dans le centre de Paris, dans le quartier des Halles, où de nouveaux heurts ont éclaté.
Marion Gauthier, place d'Italie pour Europe 1. 120 personnes ont été interpellées aujourd'hui dans la capitale, chose relativement rare. Le préfet de Paris a pris la parole dans l'après-midi. Il a été très ferme vis-à-vis des casseurs et a assuré qu'ils seraient tous interpellés.
Après plusieurs heures d'affrontement entre casseurs et forces de l'ordre, la place a été progressivement évacuée. Jérôme Coumet est le maire du 13e arrondissement de Paris. Il ne comprend pas, lui, pour le coup, pourquoi une manifestation place d'Italie a pu être autorisée.
Je suis très attristé et en colère aussi. Je m'interroge du choix de la place d'Italie, qui était le lieu de 3 chantiers très importants. J'avais alerté la préfecture de police sur le sujet. Je pense qu'on aurait pu déterminer un meilleur lieu, parce qu'il y avait du matériel à prendre, du matériel qui pouvait servir de projectile ou pour être incendié. Et donc, c'est ce que je regrette. Mais j'ai vu aussi le courage des forces de l'ordre et des pompiers qui n'ont cessé d'intervenir toute l'après-midi et qui étaient face à des casseurs très déterminés. Moi-même, je ne suis pas contre les manifestations. Je suis allé manifester pour l'hôpital public. Ça, c'était une vraie manifestation. Mais là, ce n'était pas le cas. Dès le début de ce rassemblement, il y a eu des incendies, il y a eu des affrontements, il y a eu des projectiles lancés. C'est pas ça une manifestation dans un pays démocratique.
Jérôme Coumet, le maire du 13e arrondissement de Paris, répondait à Théo Manval. À des rassemblements, il y en avait également en région, malgré des tensions à Lyon, Nantes, Toulouse ou encore Montpellier. La journée s'est globalement bien passée. Les Gilets jaunes étaient toutefois moins présents, comme dans le Nord, à Valenciennes. Ils étaient 75 à manifester aujourd'hui contre 1 000 000 l'année dernière.
Cet acte 53 était intitulé « La révolte des ronds-points ». Maximilien Carlier, vous vous êtes rendu à Somain, entre Valenciennes et Douai, où les Gilets jaunes se sont retrouvés sur le rond-point des 4 chemins.
Oui, et pour l'occasion, la tonnelle était installée. Barbecue, thermos de café, table et banc, que de la récup, des drapeaux tricolores plantés au sol. Pas de blocage du rond-point, une 60aine de gilets jaunes. Habituellement, il y en a 4 ou 5. Ginette est présente depuis 1 an. Sa situation n'a pas évolué depuis.
J'ai que 670 euros par mois de retraite avec mon mari. Quand vous voyez ça, que j'ai mon loyer, le DF, le gaz, l'eau à payer, l'assurance de la maison, qu'est-ce qui me reste ? Rien. Je vis dans la misère, monsieur, et je suis bien content de retrouver ces gilets jaunes qui me soutiennent et tout.
Le rond-point de Somain est surnommé le rond-point de la solidarité par ces gilets jaunes, sauf que la mobilisation s'essouffle, selon Léon.
Oh, il y a un an, c'était formidable. On était beaucoup, beaucoup. On a fait la messe de minuit ici avec l'abbé Joseph. Tout le monde a porté de quoi manger. C'était vraiment une famille. Et malheureusement, après les gens, au bout d'une année, les gens, ils désespèrent. Il n'y a plus personne qui veut bouger. Les gens, ils sont résignés, disons. Ils subissent, c'est tout.
Et ces gilets jaunes l'assurent, ils reviendront demain sur ce même rond-point pour montrer que le mouvement continue.
Maximilien Carlier dans le Nord pour Europe 1.
À 19h15, je reçois Jérémy Clément. Il est entrepreneur, gilet jaune du Loiret, président des Ronds-Points du Cœur. Gilet jaune, oui, mais il ne porte plus justement cet habit. Il nous en dira davantage dans quelques instants.
Il est 19h06. La suite du journal sur Europe 1, Sophie Tussaud, Wendy Bouchard.
2 jours après les importantes chutes de neige en Rhône-Alpes, les agents d'Enedis sont donc toujours à pied d'œuvre pour tenter de rétablir le courant. 145 000 foyers, à l'heure où nous parlons, sont toujours privés d'électricité.
Comme à Chabeuil dans la Drôme, où vous vous trouvé pour Europe 1, Élise Dangean. Cela fait maintenant donc 48 heures qu'une partie des habitants est totalement plongée dans le noir.
Oui, là où je me trouve, c'est assez impressionnant. La lumière a complètement disparu, des réverbères, mais aussi des maisons. Les logements semblent d'ailleurs abandonnés. On peut parfois apercevoir la lueur d'une bougie à travers une fenêtre. C'est comme ça que Jacques, 52 ans, s'éclaire depuis 48 heures et il commence à s'impatienter.
On commence un peu à avoir froid, quoi. On essaye de faire avec les moyens du bord. c'est un peu dur quoi.
Alors c'est quoi les moyens du bord?
Ben, les moyens du bord, c'est j'ai pris une bouteille de gaz avec un petit chalumeau et j'allume ça pour pouvoir me chauffer un petit peu quoi, pour faire la nourriture, pour manger et tout. On essaye de faire avec. Hein.
D'autres sont plus équipés, c'est le cas d'Ando. Par chance, il avait un groupe électrogène dans son garage, mais ça ne suffit pas.
J'ai bidouillé un truc et puis voilà, donc ça fiche la lumière. Pour mon congélateur aussi. Par contre, j'ai pas de chauffage. J'ai essayé déjà d'acheter un petit truc électrique et non, ça ne fonctionne pas. Au fait, c'est le groupe qui n'est pas assez puissant. Comme ça fait 2000 watts, il faut avoir un groupe beaucoup plus puissant. Quoi. Pour moi, pour le moment, ça dépanne.
Certains habitants de Chabeuil se sont réfugiés dans le centre culturel de la ville sur invitation du maire. D'autres ont quitté la région le temps du week-end, ce qui accentue le sentiment d'être dans une ville complètement déserte.
Élise Dangean dans la Drôme pour Europe 1. Le niveau d'alerte météo à Venise baisse légèrement. Il est rétrogradé de rouge à orange. La cité des Doges est toujours inondée au lendemain d'un pic historique de marée. Le niveau de l'eau a atteint hier 1,54 m, le plus haut depuis 53 ans. Les dégâts sont considérables. Le maire de Venise a lancé un appel aux dons pour aider aux réparations. On prend la direction de la Guadeloupe à présent, où les enfants sont sensibilisés au cyclone à l'occasion de la fête de la science qui se tient aux Antilles un mois après celle de métropole.
Un atelier a été organisé pour expliquer aux enfants comment se forment les cyclones, comment mieux s'en protéger. Reportage sur place de notre correspondante Laura Latchan.
Coïncidence des prévisions météorologiques, c'est sous une pluie battante qu'une vingtaine de scolaires participent, les yeux curieux, à une présentation sur les cyclones avec un spécialiste.
Vous avez déjà entendu parler des vigilances ?
Vigilance vert, vigilance jaune, vigilance orange, vigilance rouge.
Anzo, 10 ans, en CM2, n'a rien loupé de cette présentation.
Il nous a expliqué que quand il arrive au-dessus des terres, il commence à mourir parce que sans eau, il ne peut pas continuer à survivre.
Et les enfants ne sont pas venus seuls. Certains parents ont fait le déplacement. Comment témoigne ce papa?
Au vu de ce que les enfants pensent et disent, ça montre réellement qu'ils sont touchés par ce qui se passe, qu'ils sont conscients aussi qu'il faut qu'ils fassent attention aux cieux afin que rien ne leur arrive.
Une formation indispensable pour les Guadeloupéens qui sont souvent concernés par des vents violents. Didier Bernard, maître de conférence à l'Université des Antilles.
On doit s'inquiéter. Il faut dépasser cette affaire d'inquiétude et il faut justement prévoir et justement anticiper et se préparer. Et c'est pour ça qu'on fait ça.
Selon les études et globalement dans le monde, les chercheurs prévoient une baisse du nombre de cyclones mais de plus grande intensité dans les années à venir. Pointe-à-Pitre, Laura Latchan, Europe 1.
Nous avons appris cet après-midi la disparition d'Eric Morena, le chanteur lyrique à l'accent espagnol avait connu le succès à la fin des années 80 avec « Oh mon bateau », un titre resté 4 mois numéro 1 au top 50 entre 87 et 88 et qui s'était vendu à 1 million d'exemplaires. Eric Morena se battait depuis plusieurs mois contre un cancer, il avait 68 ans. Ses obsèques seront célébrées vendredi prochain dans le Pas-de-Calais à Saint-Omer.
Oh mon bateau. Et tout me guide sur les flancs, même ce qu'il y a de primaux.
Éric Morena, merci Sophie Tussaud et à tout à l'heure pour le rappel de l'actu 19h30.
Vous êtes bien sur Europe 1, il est 19h10.
On reprécise Valérie Darmon, trois départements encore en vigilance. Inondation pour le Gers, pluie et inondation pour les Landes et les Pyrénées-Atlantiques ce soir. Mais demain, retour au calme dès la fin de la nuit. Il fera, cela dit, toujours aussi froid Valérie.
Et oui, avec des gelées fréquentes sur les trois quarts de la France, moins 2 à 0 degrés à vos thermomètres. Il fait moins froid au sud de la Garonne avec 5 à 7. Et dans l'après-midi, les maximales afficheront 4 à 7 sur les trois quarts du pays, jusqu'à 10 dans les plaines d'Aquitaine et 12 près de la Méditerranée. Côté ciel, de fortes pluies orageuses se produisent au sud de l'Aquitaine, toujours avec de fortes intensités de précipitations. Et dans le même temps, de fortes averses orageuses vont débuter dans l'après-midi en Corse et se renforcer rapidement au fil de la journée. Alors évidemment, ce dimanche, la situation s'améliore au fil des heures. Mais dans le même temps, on a de petites chutes de neige qui vont débuter sur la Suisse et qui vont déborder vers les vallées alpines. Et il neigera dès 400 à 500 mètres d'altitude. Soyez prudents si vous circulez depuis les pleine d'Alsace, jusque sur les Alpes du Nord, en ce dimanche et surtout en ce lundi. Ailleurs, le temps est toujours humide. mais tout de même beaucoup plus calme.
Merci Valérie Darmon. Allez, c'est l'heure du journal des sports, Wendy Bouchard.
On retrouve pour vous informer Jean-François Pérez sur Europe 1 du rugby pour commencer la première journée de la Coupe d'Europe.
Oui, Clermont qui reçoit les Anglais des Harlequins. C'est bientôt la mi-temps et les Clermontois fêtent dignement leur retour dans la compétition, Damien Tardieu.
Exactement, Jean-François. 35 minutes de jeu. Clermont mène 22 à 7. 3 essais pour des Clermontois réalistes, opportunistes, talentueux aussi. On se souvient de cette passe laser de Camille Lopez, notamment pour l'essai de Fritz Lee tout à l'heure, essai de Lee, de Yato, de Raka. Clermont pour l'instant déroule. Attention, les Harlequins ont réduit le score et les Harlequins sont revenus à 22-7. Là, on passait en demi-finale de la petite Coupe d'Europe. Ils étaient menés de 20 points à la mi-temps. Ils étaient venus mourir à 5 points. Donc vigilance. 5 minutes à jouer, 22-7 pour Clermont.
Merci Damien. Pour le reste, lourde défaite pour La Rochelle cet après-midi face aux Anglais d'Exeter, 31 à 12. J'en profite pour vous rappeler notre grand rendez-vous ce soir à 20h dans Europe 1 Sport. Serge Blanco, la légende du rugby français face aux auditeurs d'Europe 1.
Autre match que nous suivrons en direct, le choc du championnat de France féminin de foot.
Oui, c'est bientôt la fin du match au Parc OL devant près de 30 000 spectateurs, record battu pour un match de championnat en France. Maxime Schoch, les Lyonnaises vont-elles préserver leur suprématie sur les Parisiennes ?
Eh bien, c'est bien parti. Il reste moins de 6 minutes de jeu ici au Groupama Stadium. Les Lyonnaises mènent 1-0 depuis la 49e minute. Une tête de la japonaise Saki Kumagai sur corner. La gardienne parisienne a sauvé son camp par deux fois. Depuis, les Parisiennes auraient pu égaliser à la 76e minute. Mais ça fait donc 1-0 ici. On est à la 85e minute.
Très belle ambiance, Maxime Schoch. Merci. Le foot au masculin cette fois. Albanie-France, ce sera demain soir à Tirana.
Et ce sera sans Kingsley Coman blessé. Est déjà rentré à Munich. Pour le reste, direction la capitale albanaise avec Cyril de la Morinerie. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Jean-François.
Ce dernier match des éliminatoires de l'Euro 2020 va se dérouler dans un stade flambant neuf et sans doute bouillant.
Oui, absolument. Un stade rouge et blanc en couleur de l'Albanie. Il va être inauguré pour l'occasion. 22 000 places au total qui se sont vendues comme des petits pains. Évidemment, c'est l'événement pour l'Albanie d'accueillir les champions du monde. Mais l'enceinte n'est pas totalement terminée. Un séisme mi-septembre a retardé les travaux des ouvriers qui s'affairent encore ce soir. Il reste des coups de peinture à donner. La ventilation, par exemple, en salle de presse ne fonctionne pas. Didier Deschamps a d'ailleurs eu chaud pendant cette conférence de presse un peu surréaliste où un journaliste du pays, je vous donne un exemple, lui a demandé s'il souhaitait sélectionner prochainement un joueur albanais en équipe de France. Il s'est retourné vers le traducteur, mais c'était la bonne traduction. Et c'est impossible, c'est ça la réponse. On ne peut pas sélectionner un Albanais en équipe de France. Mais ce match, c'est du sérieux. Deschamps a d'ailleurs deux objectifs. Il l'a rappelé, finir à la première place du groupe et faire beaucoup mieux dans le jeu que lors de la première période face à la Moldavie.
Merci Cyril. Vous me tendez une perche avant le match de demain soir à 20h45. Dès ce soir, gros clash, comme on dit aujourd'hui, entre Noël Le Graët et Karim Benzema. Pour le président du foot français, l'aventure est terminée. Pour Benzema, avec les Bleu, réponse de l'avant-centre du Real. Si je suis terminé pour la France, laissez-moi jouer pour un des pays pour lesquels je suis éligible et nous verrons. Les pays, c'est l'Algérie ou l'Espagne. La requête n'a aucune chance d'aboutir vu les règlements, mais les propos font déjà florès, vous l'imaginez, sur les réseaux sociaux. Voilà Wendy.
Merci Jean-François Pérez pour l'actu du sport.
À suivre dans le grand journal du soir, Wendy.
Un entrepreneur du Loiret, il nous rejoint, gilet jaune depuis un an, adepte d'un mouvement rassembleur et non violent. Il était à Paris aujourd'hui. Que retient-il justement de cette journée? Eh bien, vous l'entendrez tout de suite.
Il est 19h17, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1 avec vous, Wendy Bouchard. Acte 53 des Gilets jaunes, vous recevez en studio en ce samedi 16 novembre l'un de ces citoyens en colère, chef d'entreprise du Loiret.
Oui, il a fondé SAS Clément, société dans le bâtiment à Château-Renard, près de Montargis. Bonsoir Jérémy Clément.
Bonsoir Wendy.
Merci d'être venu. Alors, je pensais que vous ne portiez plus le gilet jaune. C'est vrai que vous ne le portez pas depuis quelques mois. Mais aujourd'hui, oui.
Oui, comme un symbole. Il y a quelques mois, je ne le portais plus par rapport aux amendes. Mmh. Et puis, c'était tellement le bazar dans notre mouvement. Il y avait tellement de divisions entre les stylos rouges, les foulards rouges, les fonctionnaires, les policiers, les citoyens... qu'à un moment donné, j'ai décidé de le tirer et j'ai expliqué qu'en fait, je suis peut-être gilet jaune, mais je suis citoyen avant tout.
Tout le reste, oui.
Et qu'aujourd'hui, l'artisanat, c'est les fonctionnaires, c'est les handicapés, les agriculteurs, c'est tout, c'est le monde du travail. Donc voilà, on n'a pas forcément besoin de porter un gilet.
Aujourd'hui, comment se sent le citoyen avant tout, Jérémy Clément? 120 interpellations, 78 personnes en garde à vue, une manifestation pourrie finalement par les casseurs place d'Italie, entre autres.
Oui, mais c'est bien fait pour nous. C'est bien fait pour nous. On a voulu jouer les jeux démocratiques en déclarant nos manifestations. Le problème, c'est que c'est une invitation à porte ouverte. Mmh. N'étant pas structuré comme un syndicat sur le terrain, on n'a pas de service d'ordre. Maintenant, vous savez, nous, je dois être à une manifestation par mois par solidarité et puis pour aller rencontrer aussi un peu les gens.
Dans le Loiret ou un peu partout en France?
Un peu partout en France. Mmh. Et le plus important, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on laisse la place des revendications à la place des propositions et des solutions. On en a, nous, depuis le mois de décembre, on joue le jeu républicain, on est républicain, on joue le jeu démocratique à travers l'insertion qu'on a fait pour insérer le champ électoral, notamment les européennes, où on s'est planté, par rapport au vu de nos résultats. Hein, bien sûr, après, on est content. Pour nous, c'était déjà une victoire que d'être capable de présenter un bulletin, mettre dans les urnes.
Ça donc poussait la logique jusqu'au bout, en tout cas, de
c'est
l'intérêt
pas ça, c'est la révolte par le vote, c'était un peu notre slogan, en disant, OK, on n'est pas content, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Maintenant, tout n'est pas pourri. Je veux dire, il y a une représentativité des élus qui est infâme. Mm. Mais pour autant, ça ne comprend pas tous les élus, parce qu'il y en a une bonne partie avec qui on travaille et avec qui on arrive à poser des idées. Maintenant, ces idées, on a fait une demande au Premier ministre. On espère qu'il prendra une heure ou deux de son temps, malgré le fait qu'il doit être chargé. On a des idées à présenter sur la table.
Par exemple, sur la réforme fiscale ?
Oh, sur beaucoup de choses. Oui, pour amener du pouvoir d'achat, ramener le calme, quelque chose de constructif. On a fait la demande. On part du principe que si on n'est pas écouté, ça veut dire que c'est comme s'ils attisaient les foudres et cautionnaient la violence sur le terrain.
Jérémy Clément.
Alors qu'on est nombreux à avoir des solutions.
Pourquoi vous n'avez pas manifesté dans le Loiret aujourd'hui ? Alors que ça s'est bien passé d'ailleurs dans la plupart des communes de France.
Parce que... parce que je n'avais pas de retour forcément de ce qui se passait. Je savais qu'il y avait un ou deux ronds-points qui allaient reprendre. Maintenant, il y avait énormément de Montargois qui étaient présents sur Paris aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de les voir. Et puis, j'avais des invitations ici, différentes personnes. Et n'étant pas présent tout le temps, c'était important de pouvoir répondre. Voilà.
Je voudrais que vous répondiez à une autre figure des Gilets jaunes. Elle s'appelle Jacqueline Mourot. C'est un petit peu celle par laquelle tout a commencé, avec sa vidéo contre la taxe carbone.
Qui a été vue 8 millions de fois.
Mmh. Et elle répondait hier soir à Nathalie Lévy.
C'est totalement incohérent d'aller une énième fois, je dirais, emmerder les Parisiens, quoi. Et passez-moi le terme. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et les magasins vont encore fermer, on approche de Noël. Vous savez, je crois qu'en France, actuellement, eh bien, les gens, ils ont besoin de passer un Noël en paix. Mmh. Et on peut être dans une contestation respectueuse comme je le suis.
On peut être dans une contestation respectueuse et s'interroger sur l'intérêt d'une autre manifestation, celle d'aujourd'hui à Paris, Jérémy Clément.
Ça fait des mois qu'on essaye de voir avec les organisateurs, les influenceurs actifs sur le terrain, pour organiser une manifestation mensuelle dans des villes différentes, grandes ou petites, ce qui nous permettrait de nous organiser avec les mairies et de pouvoir avoir quelque chose de plus sécuritaire. Maintenant, ce mouvement, il appartient un peu à tout le monde.
Mais pour recommencer l'histoire dans un parfum de nostalgie un peu un an après, pour
ma part, aujourd'hui, je suis venu, c'est surtout par solidarité, fraternité. Il ne faut pas oublier qu'à la base, dans notre Constitution, ces trois mots ont eu de la valeur pendant quelques décennies avant qu'ils perdent tout son poids. C'est liberté, égalité, fraternité. Lorsque j'étais sur le rond-point, moi, le 19 novembre à Montargis, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vécu depuis longtemps. J'ai toujours eu de l'empathie pour les gens. Mais vous savez, quand vous avez quelqu'un de fermé ou des citoyens que vous croisez, où tout le monde est dans sa bulle, vous ne discutez pas avec les gens. Ce qui s'est passé sur les ronds-points, c'est que ça nous a permis de discuter, justement. Moi, je faisais partie de ces incultes sociaux et politiques, où je ne maîtrisais rien du tout. Ça veut dire qu'on m'a informé de certaines choses. Après, j'ai travaillé et j'ai vu qu'effectivement, il y avait des malaises.
Vous disiez être citoyen par-dessus tout. Mm-hmm. Vous êtes donc aussi solidaire des pompiers, aussi solidaire des forces de l'ordre, qui en ont plein la figure et ras-le-bol aujourd'hui de ces différentes manifestations qui les épuisent.
Oui, mais ça, à chaque fois que je pars dans ce sujet-là, je suis entièrement d'accord avec vous. Aujourd'hui, vous avez tout le monde qui manifeste, les pompiers, les retraités, il y a beaucoup de retraités, les hospitaliers.
Vous irez le 5 décembre à la
Oui, géré par solidarité. J'espère que ça se passera bien. Normalement, les syndicats sont bien plus structurés que notre mouvement, qui est encore un mouvement très jeune. Mmh. Il sera présent dans le temps, mais on a besoin aussi de structurer tout le monde. Mettre d'accord tout le monde, c'est impossible. C'est pour ça que la voie de la concertation est proposée. C'est que ça permet, par un vote à une voix, de pouvoir décider quel chemin on peut prendre et comment travailler.
Vous avez créé cette association, les Ronds-Points du Cœur. Quelle est sa mission ?
Sa mission, c'est de l'aide et de l'entraide sur tous les sujets. On avait décidé au mois de novembre l'année dernière, via les réseaux, le fait d'avoir été un peu médiatisé, d'utiliser les réseaux qui s'offraient à nous pour pouvoir aider notre prochain. Au jour d'aujourd'hui, la dernière action qu'on vient de faire, elle a été faite par un adhérent qui s'appelle John Ferrandin. Qui est dans les Hautes-Pyrénées, je crois, où il nous a appelé en disant voilà, il y a une action, on a une épouse, j'ai une copine, son mari là-bas, elle a porté plainte, est-ce qu'on peut l'appuyer ? Il a été appuyé au nom des ronds-points du cœur. Aujourd'hui, cette personne qui violentait sa femme a pris 24 mois de prison ferme. Et ben ça, c'est une action concrète. Après, il y a les frigos qu'on remplit, des gens qui dorment dehors qu'on aide,
ça,
etc.,
c'est beau.
Etc.
Ça, c'est beau parce que c'est un réseau de solidarité que vous avez créé.
Et
Jérémy
malheureusement,
Clément.
Il y a beaucoup de travail. Hein. C'est une vraie explosion. Ça marche mieux que mon chiffre d'affaires et ma société, je vous le dis.
Eh bien, merci. Voilà, je rappelle quand même votre société en bâtiment SAS Clément à Montargis, à côté, Château-Renard. Jérémy Clément, merci.
Merci à vous.
Et je vous laisse parce que vous allez rejoindre un collectif pour discuter de la suite justement des événements. Merci de votre
merci
présence
beaucoup.
En studio ce
merci
soir.
Merci à vous. Bonne soirée.
19h24, nous sommes avec Wendy Bouchard jusqu'à 20h sur Europe 1.
Voici l'écho de la planète chaque samedi, c'est le journal de l'environnement. Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Voici le sommaire, un recul historique du nombre de voitures à Paris, le retour en Europe de Greta Thunberg pour la COP25 à bord d'un catamaran, et puis la semaine zéro déchet démarre aujourd'hui en bonus. Nicolas Hulot répond à une question de ma copine Catherine.
Pour la première fois depuis les années 70, donc, le nombre de voitures recule en région parisienne.
Oui, et ce n'est pas un petit recul. Hein. Moins 5% de trajets quotidiens en voiture depuis 2010. En volume, ça représente 700 000 trajets de moins dans une voiture individuelle chaque jour, sur environ 15 millions. Mm-hmm. Ce sont les chiffres de l'enquête globale transport menée par Île-de-France Mobilité, donc l'organisme qui organise les transports en région parisienne. C'est très net sur la courbe. Elle s'infléchit régulièrement depuis une dizaine d'années, ce qui n'était jamais arrivé depuis 1976.
Ah oui, et ça concerne quelle catégorie de population alors ?
Alors c'est un mouvement assez général. On lâche sa voiture, c'est vrai, pour les cadres, les employés, les ouvriers, les chômeurs. Mm-hmm. Il y a quand même quelques catégories qui résistent, les agriculteurs, les retraités ou les artisans commerçants. Ce qui est très nouveau, c'est que l'usage de la voiture ne recule pas seulement dans Paris, mais aussi en petite couronne, oui. Moins 13%, et même en grande couronne, donc en grande banlieue, royaume de la voiture, moins 1%.
Donc si tous ces gens ne se déplacent plus en voiture, qu'est-ce qu'ils prennent ? Le vélo, les transports en commun ?
Alors voilà, ils délaissent la voiture pour se reporter d'abord clairement sur les transports en commun, donc oui. Bus, métro, train, plus 13% de passagers, mais aussi sur la marche à pied, plus 8%, et puis le vélo qui fait un bond spectaculaire depuis 10 ans selon cette enquête, plus 29% dans toute l'Île-de-France.
C'est pas mal, plus 29% de vélo, oui. Donc en région parisienne. Greta Thunberg a donc trouvé un voilier pour la ramener en Europe à temps pour la COP25.
Oui, elle est en mer en ce moment, après plus de 2 mois passés en Amérique du Nord. Elle rentre sur le bateau d'un couple de youtubeurs australiens qui vivent, eux, avec leur bébé d'un an. Elle a embarqué avec son père, Svante, qui est acteur, une navigatrice professionnelle pour assurer le trajet. Mmh. Le catamaran de 14 mètres est parti en début de semaine de la côte est des États-Unis, d'un petit port de l'État de Virginie, par une mer assez agitée, direction le Portugal, où il devrait arriver d'ici 2 semaines. Donc, à temps pour le sommet sur le climat, la COP25, qui doit démarrer le 2 décembre à Madrid, en Espagne, où elle est invitée. Greta Thunberg en a profité pour faire un bilan des mois écoulés et des commentaires sur les présidents et les premiers ministres qu'elle a rencontrés aux États-Unis avec la franchise qu'on lui connaît, qu'il a caractérisée. Écoutez.
Les dirigeants du monde entier et les politiciens me demandent tout le temps des selfies à moi et à d'autres militants du climat parce qu'ils veulent avoir l'air bien à côté de nous.
Voilà, le cynisme qu'elle dénonce un peu.
Oui.
Greta, donc, elle ne précise pas de qui elle parle. Elle a rencontré Barack Obama, Arnold Schwarzenegger et bien d'autres. Et que dit-elle de Donald Trump ? Eh bien, elle considère qu'il est tellement extrême, qu'il dit des choses si extrêmes que les gens se sont réveillés d'une certaine façon.
On va terminer avec la semaine zéro déchet qui démarre donc aujourd'hui. Ça, c'est la spécialité de votre copine Catherine.
Oui, elle tend vers le zéro déchet, notamment parce qu'elle, quand elle va faire ses courses, elle ne prend pas seulement ses sacs réutilisables, mais aussi des bocaux ou des tupperwares.
Avec une caravane, quoi.
Voilà, exactement. Ouais. Pour éviter que, par exemple, le boucher ne lui serve un steak dans un emballage papier plastifié à l'intérieur. Mmh. C'est une question d'habitude, dit-elle, mais est-ce que ces petits gestes ont réellement un impact ? Elle a posé la question à Nicolas Hulot en personne.
La réponse, elle est très clairement oui. C'est nécessaire. Mais bien entendu, ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire parce que ça représente, si chacun était vertueux, entre 15 et 25% des objectifs que l'on s'est fixés ou que la science nous impose si on veut notamment éviter que les changements climatiques ne deviennent qu'une grande tragédie. Mais il faut qu'après, évidemment, les acteurs économiques et les acteurs politiques fassent, organisent la société pour réussir les 80 autres pourcents.
Nicolas Hulot qui répond donc à votre copine Catherine. Mais elle est journaliste, votre copine Catherine ?
Elle n'est pas journaliste.
Alors elle l'a rencontrée où ?
Elle est écologiste, elle est activiste. Donc elle lui a demandé une petite rencontre, un entretien. Et il lui a répondu.
Et bah absolument. Bravo, en exclusivité pour Catherine Magne, votre copine. Et pour Europe 1 ?
Oui, absolument.
Au cœur de l'écho de la planète, chère Virginie Salmen, qu'on retrouve samedi prochain pour nous donner des news de l'environnement. Merci.
Bonsoir.
Dans un instant, Wendy, le rappel des titres de l'info dans l'ombre des grands chefs et puis l'œil de Frédéric Dabi.
Absolument, nous parlerons du jaune et du pas jaune. Les gilets d'un côté, poulies d'or de l'autre. À tout de suite.
19h30, vous écoutez le grand journal du soir sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Voici l'essentiel de l'actualité, Sophie Tussaud.
Une journée de tension pour marquer le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Des casseurs ont investi la place d'Italie à Paris. Des véhicules et des poubelles ont été incendiés. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. Le préfet de Paris a pris la parole dans l'après-midi et a promis une réponse ferme. 124 personnes ont été interpellées dans la capitale. Les tensions se concentrent ce soir dans le quartier des Halles. Des tensions également en région, à Lyon, Nantes, Toulouse et Montpellier, où un policier a été blessé, et la permanence d'un député, La République En Marche, prise pour cible. Les agents d'Enedis rétablissent peu à peu le courant en Rhône-Alpes après les importantes chutes de neige de la nuit de jeudi à vendredi. 145 000 foyers sont toujours privés d'électricité. En Iran, de nouvelles manifestations à travers le pays, une mobilisation spontanée après l'annonce surprise hier par le gouvernement d'une hausse drastique du prix de l'essence et au lendemain de la mort d'un civil lors des manifestations. Et puis il avait été révélé au public avec Aumont Bateau. Éric Morena est décédé aujourd'hui des suites d'un cancer. Son titre, 4 mois au top 50 à la fin des années 80, avait été vendu à 1 million d'exemplaires. Éric Morena avait 68 ans.
Merci Sophie.
Plaisir des papilles, voici tout de suite dans l'ombre des grands chefs.
Chaque semaine avec Pierre Herbulot, vous qui partagez pour nos auditeurs une recette en or. On vous écoute, recette de la mer ce soir. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Wendy. Alors attention, j'ai en face de moi un chef 2 étoiles ce soir, Christopher Coutenceau. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous êtes le chef du restaurant qui porte votre nom, Relais et Château Christopher Coutenceau.
C'est bien ça, à La Rochelle, sur la plage de la concurrence.
Vous pouvez nous donner le nom du plat ?
Carpaccio de bonite de fumée. Concombre, avocat et wasabi. On va faire des tagliatelles roulées de concombre marinées dans une vinaigrette de wasabi. Guacamole d'avocat, salpicon d'avocat et salpicon de concombre au wasabi. Salpicon, c'est des petits cubes assez fins de concombre et d'avocat.
Alors,
donc on a le concombre. On peut garder la peau, hein, bien le laver. Donc on va faire des bandes. Hein, avec une mandoline, tout simplement, on coupe le concombre en deux dans sa longueur. Mandoline pour faire des bandes d'une épaisseur de, on va dire, de 5 mm. Voilà, là, on a fait nos bandes. Et ensuite, on va les couper tout simplement en petits cubes. On va rajouter juste un petit peu de ciboulette ciselée, un petit peu de jus de citron et de wasabi, d'huile d'olive, sel, poivre et le salpicon est fini. Parce qu'encore une fois, on fait un salpicon de concombre, donc il faut garder le goût du concombre aussi.
On fait exactement la même chose avec l'avocat.
On coupe notre avocat en deux. Avec une cuillère à soupe, on enlève la chair d'avocat de la peau. Après, au couteau, on en fait des lamelles, hein, de la même épaisseur que le concombre. Et après, des petits bâtonnets. Et après, on tourne ces bâtonnets pour les couper en petits cubes.
Et les assaisonnements pour l'avocat ?
Pareil, citron, wasabi, huile d'olive, sel et poivre. Ce qui est important dans un plat, c'est ne pas dépasser 3 saveurs. Donc là, sur les saveurs, on a l'avocat, le concombre, la bonite.
On s'arrête là.
Voilà, c'est vraiment le produit phare. Le but, c'est comme un bijou. Il y a le bijou au centre et l'écrin qu'on construit autour pour sublimer ce produit.
En l'occurrence, là, c'est de la bonite rayée fumée que l'on peut remplacer, vous me disiez tout à l'heure, par un autre poisson plutôt gras, du saumon d'élevage fumé ou du maquereau fumé.
Dans un demi-cercle, pour faire la moitié de l'assiette, couper finement de belles lamelles de carpaccio de bonite. On va dresser 5 cylindres de tagliatelle de concombre. Après, on va saupoudrer de notre salpicon de concombre, notre petit salpicon d'avocat. En suivant, on va assaisonner de notre vinaigrette citron wasabi très légèrement notre carpaccio de bonite, avant de l'assaisonner à la fleur de sel et un tout petit peu de piment d'Espelette.
On le goûte ce plat ?
Allez, on goûte. Donc là, il y a des cuillères.
Fantastique.
On coupe un petit bout.
Merci. Bon, c'est un plat, j'ai goûté qu'une bouchée, mais c'est d'une efficacité redoutable. Ce poisson-là qui est vraiment effectivement au cœur de l'assiette. Et en fait, finalement, les petites garnitures à côté sont plus un assaisonnement.
Voilà ce qu'on va appeler du condiment un petit peu, oui.
Facile à refaire à la maison et franchement un plat de grand chef.
Voilà, simple, efficace et je pense que les convives qui vont le déguster se feront plaisir.
C'est sûr. Merci beaucoup, chef.
Merci à vous.
À suivre.
Merci Pierre Herbulot. Recette à retrouver, comme d'habitude, sur notre site.
Europe1.fr. Il est 19h35. Voici à présent l'œil de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.
Ravi de vous retrouver. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Alors on en parle depuis un certain nombre d'heures. Il y a tout juste un an, le 17 novembre, 300 000 personnes défilaient dans les villes et les villages de France, révoltées contre la taxe carbone, des mois de contestation et un an plus tard, certains toujours déterminés.
J'y crois encore et j'espère que les Français vont se réveiller et qu'on va descendre tous dans la rue le 5 décembre, parce que le 5 décembre, il y a une grève générale.
Alors on fait le point avec vous Frédéric Dabi, enquête à l'appui, enquête IFOP. De quel œil les Français regardent-ils les Gilets jaunes en novembre 2019 ?
L'œil est toujours bienveillant, Wendy, pour cet événement qui est jugé comme le plus important du quinquennat d'Emmanuel Macron. Une enquête récente IFOP fiduciale pour CNews montre qu'il y a une majorité de Français, 52%, qui éprouvent soutien et sympathie.
C'est pas mal
C'est pas mal, c'est moins élevé qu'au début du mouvement, on était à 72%. C'est inférieur à d'autres mobilisations davantage soutenues par les Français quand on s'intéresse aux urgentistes, aux conditions de vie des policiers. Mais c'est non négligeable pour le mouvement social le plus long de la 5e République, qui n'a jamais été un mouvement de masse. Même dans les premiers actes, il y avait 300 000, 400 000 personnes, jusqu'à devenir presque virtuel ces derniers mois. Oui. C'est absolument inédit.
Ça veut dire que les Français font toujours la part des choses entre les casseurs, les irréductibles qu'on a vus, et puis les gens de bonne foi, comme disait le préfet tout à l'heure.
Ça a été une véritable constante dans le regard des Français sur ce mouvement. Ils ont toujours opéré une dissociation entre les actes de violence jugés inadmissibles, quand même ils étaient commis par des gilets jaunes, et ceux qui étaient au cœur des revendications. Symboliquement, dans notre série d'enquêtes, au moment où le soutien était le plus fort, c'est après le 1er décembre, moment du drame où l'Arc de Triomphe avait été abîmé. Oui. Tout simplement parce que les revendications des gilets jaunes résonnent chez beaucoup de Français, bien au-delà des taxes sur les carburant qui avait été le détonateur de ce mouvement.
L'étincelle.
C'est toute une série de choses. C'est la crainte du déclassement, c'est le travail qui paye mal, c'est le pouvoir d'achat et plus largement le sentiment de ne plus maîtriser son destin.
Oui, ce qui met toujours en colère aujourd'hui dans cette société fracturée où les mobilisations sociales sont nombreuses. On entendait cette citoyenne appeler à la manifestation le 5 décembre. C'est un mouvement social qui peut amener à la convergence des luttes. On s'inquiète dans vos études de cela un peu, Frédéric ?
Alors clairement, les Français le redoutent ou certains plus à gauche l'espèrent. C'est vrai qu'il y a un horizon le 5 décembre où avec ce mouvement plutôt dans les transports contre la réforme des retraites. On a entendu des gilets jaunes vouloir peut-être s'y agréger. Il y a un malaise du côté des étudiants après le drame qu'a connu un étudiant à Saint-Étienne. C'est vrai qu'on est dans une situation relativement électrique. Il y a un regard de plus en plus social ou antisocial du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que quand on s'intéresse au sujet qui provoque le plus de la colère chez les Français, c'était une enquête IFOP Marianne il y a une quinzaine de jours, ce ne sont pas les attentats terroristes, ce n'est pas le chômage de masse, c'est la question du pouvoir d'achat, le fait que des salariés ne parviennent pas à boucler leur fin de mois, et puis la situation de précarité avec en plus en toile de fond cette réforme des retraites qui est particulièrement anxiogène parce qu'on sent les Français ont majoritairement le sentiment qu'ils vont y perdre.
Voilà pour le premier sujet du jour. Frédéric Dabi, jaune comme gilet jaune, d'accord, et comme le maillot jaune, celui que Poulidor n'aura jamais revêtu pour ce qui concerne le Tour de France, mais qui restera l'un des plus grands cyclistes français, l'un des sportifs préférés du public. Écoutez, Poupou.
Les enfants, ils viennent me voir. C'est toi, Poupou ? Ça fait plaisir, mais tais-toi. C'est toi, Poupou ? Mon papy m'a parlé. C'est toi qui faisais toujours deuxième, voilà. Mitterrand, quand il a été battu, pour la deuxième fois, la présidente de la République, on a dit, c'est le Poupou de la politique. L'autre jour, j'ai eu la visite d'un gars qui fait de la pétanque. Il est toujours deuxième. On l'a baptisé le Poulidor de la pétanque. À l'école, il y a un gars même. Mon papy m'a baptisé Poupou parce qu'il est deuxième à l'école. Tous les jours.
Voilà. Le pauvre. Ce serait bien d'oublier un petit peu cette caricature.
C'est déjà très émouvant d'entendre cette voix. Alors, c'est vrai qu'il faudrait peut-être oublier ce perdant magnifique pour rappeler que c'était un champion doté d'un très grand palmarès, champion de France, vainqueur de, quand même de cette étape du Tour de France, même s'il n'a jamais porté la tunique jaune. Deux tours Paris-Nice, le Dauphiné libéré. Mais c'est vrai que ce palmarès exceptionnel, quand même, a été effacé dans la mémoire des Français par ses échecs sur le Tour de France. D'autre part, et ça c'est plus l'homme de l'IFOP qui parle, jamais les Français, pour un sportif, ont autant préféré l'homme aux champions. C'est pour cela que Raymond Poulidor a été classé très longtemps dans le top 50 des personnalités IFOP JDD. Il a fait mentir un adage, une règle non écrite de ce classement qui était la suivante. Un sportif prenant sa retraite quittait très rapidement ce classement.
Clairement.
C'était le cas pour Michel Platini,
oui.
C'était le cas pour Alain Prost, c'était le cas pour Bernard Hinault, lui qui a gagné si souvent le Tour de France 5 fois, et à la différence de Raymond Poulidor qui lui n'avait jamais été en jaune, Bernard Hinault a vite quitté le top 50. Raymond Poulidor y est resté extrêmement longtemps.
Ça, c'est incroyable. Vous qui avez fait beaucoup de salons du livre avec lui, Fabien Lecoeuf, vous avez constaté combien il attirait la sympathie, l'engouement des Français.
Ah, mais, et les familles.
Et les familles,
les
oui.
familles françaises. C'est-à-dire que tout le monde venait voir, tout le monde l'aimait, l'éternel deuxième qui était resté numéro 1 dans le cœur des Français.
Ouais, vous l'aviez rencontré, Frédéric Dabi?
Oui, je l'avais rencontré il y a 2 ans sur une étape du Tour de France, pas loin de Lourdes, de mémoire, et j'avais été frappé. On ne se connaissait absolument pas. Il n'y a pas de raison de me connaître, mais par sa simplicité, sa chaleur et puis sa passion.
J'aime bien ce que disait Christian Laborde chez Christophe Ondelat de cette semaine. Poulidor, c'est aussi la France des toiles cirées et des cuisines. C'est un peu cette authenticité française aussi.
Ah, et c'est avec ce type de critères de qualité reconnus par les Français qu'on perce dans le cadre du top 50. On peut dire que Jacques Anquetil, son meilleur ennemi, suscitait une proximité admirative. On admirait le champion, on ne s'intéressait pas vraiment à l'homme, alors que Raymond Poulidor, c'était cette proximité identificatoire. Tout le monde pouvait s'identifier à lui. Et ce n'était pas qu'un besogneux, c'était un champion.
Merci beaucoup Frédéric Dabi pour
Merci.
Votre œil. On vous retrouve vers 19h30 la semaine prochaine sur
Avec
Europe 1. Merci beaucoup pour l'IFOP aussi. Dans un instant
une semaine en Europe.
Voilà, on va vous a sélectionné quelques beaux moments de l'antenne. Et puis l'interview de Philippe Legrand pour vous servir aujourd'hui, l'académicien Jean-Marie Roire. À tout de suite.
18h-20h, Wendy Bouchard.
19h44, c'est votre grand journal du soir. Voici une semaine en Europe 1, les moments forts sur l'antenne, et c'est avec vous, Annie Bouchard.
C'était mardi, invité de David Doucan sur Europe 1, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, défend sa proposition de loi pour interdire les listes communautaristes aux élections.
Le communautarisme, je peux en donner une définition, c'est le fait de privilégier, en réalité, une catégorie de Français à raison de l'origine ethnique et, moi j'ai dit, laïque, c'est-à-dire religieuse.
Bon, donc pour vous, les Corses, ça ne rentre pas dans cette définition?
Non, sauf au moment, sauf si demain, les Corses avaient des menées sur une élection nationale qui pourrait menacer, comment dirais-je, la laïcité.
Jeudi, le meilleur de Nicolas Canteloup, hommage très spécial à Raymond Poulidor. Cette semaine, c'est pour vous, chers auditeurs, et pour vous, Frédéric Dabi, écoutez.
Nelson Bonfort, bonjour.
Oui, bonjour, mes chers Julie, bonjour à tous. Écoutez, évidemment, ce sont des centaines d'hommages que l'on rend aujourd'hui à Raymond Poulidor, l'éternel second, comme on l'appelait, l'homme qui a inspiré tous les sportifs français, et pas que dans le cyclisme. Les Gio Wilfried Tsonga, également, fils de Richard Gasquet, tous ont suivi l'exemple de Raymond Poulidor. Ils terminent tous second à leur match de tennis, vraiment. Je suis avec un disciple de Raymond.
Ah,
bonjour, mon cher Alain. Alain, bonjour. Que retenez-vous du grand Raymond, de celui qu'on appelait Poupou?
Écoutez, bonjour, je m'appelle Alain. Oui, je suis fan de cyclisme. Vous savez, pour moi, Raymond Poulidor, c'est d'abord l'amour de la défaite. C'est une branlée prise avec bonne humeur. C'est la joie de ne pas être premier. Et moi, ça m'a servi. Je m'ai inspiré toute ma carrière. Ma passion pour l'échec, je crois, vient de là. Alors, j'ai envie de dire ce matin, merci Poupou. Je te fais des poutous.
Oh, heureusement, on a relativisé avec vous, Frédéric. Hier, la neige qui s'abat dans la Drôme, l'Ardèche, l'Isère encore, ces foyers privés d'électricité, on en parlait. Et puis, Venise sous les eaux, Aqua Alta la plus ravageuse depuis 53 ans. Reportage de Pauline Jacot pour Europe 1.
Carlo vend ses fameux masques vénitiens. Il est fatigué, son dos lui fait mal à force d'être accroupi en train de nettoyer le sol. Il accuse les autorités vénitiennes d'être à l'origine de ces montées des eaux.
Ils ouvrent des voies de navigation toujours plus grande pour ces énormes navires de croisière sur la lagune. Ça laisse entrer beaucoup plus d'eau dans la ville et ça, ils ne veulent pas le comprendre. Ce n'est que pour des raisons économiques.
Et il y a encore énormément de commerces fermés alors qu'il est certain de compte pas rouvrir avant demain soir lorsque ce phénomène de montée des eaux est censé s'arrêter.
Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus, on cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus.
Quelle chanson de Charles Aznavour. Il faut que vous nous racontiez un petit peu les dessous de cette chanson, Fabien Lecoeuvre, qui
un chef-d'œuvre et un hommage surtout à une des très grandes parolières françaises, Françoise Dorin. On a oublié son nom.
C'est elle qui avait apporté
la première fois le texte à Charles Aznavour. Et Charles Aznavour n'avait pas retenu son texte. C'est seulement 6 mois après qu'il va la rappeler pour lui dire « on va enregistrer la chanson ». Pas lui, les compagnons de la chanson. Lui avait fait la musique sur les paroles de Françoise Dorin. Et c'est seulement après le succès des compagnons de la chanson en 1964 qu'il décidera de la réenregistrer, la chanson, finalement, Aznavour, et d'en faire le succès que l'on sait, évidemment.
Il connaissait Venise, Aznavour ?
Il n'avait jamais mis les pieds à Venise, c'est une bonne question. Et surtout, on lui reprochait d'avoir mis des guitares napolitaines dans la chanson de « Que c'est triste Venise », qui n'a rien à voir avec la musique vénitienne, évidemment. Il est allé, bien sûr, 4 ans plus tard à Venise, parce qu'avoir écrit ce chef-d'œuvre, enfin en tout cas cette musique, il était un peu obligé d'y aller.
Bah, c'est comme Véronique Sanson qui n'est jamais à la Baïa pour écrire ce chef-d'œuvre, pour boucler la boucle de ce 18
juin. Oui, c'est souvent un classique d'ailleurs. Souvent, oui. Capri, c'est fini. Hervé Villard n'avait jamais mis les pieds à Capri. Bon. C'est bien connu.
Merci. Et Frédéric,
les neiges du Kilimandjaro, je ne sais pas
Pascal
si
c'est Pascal Danel au Kilimandjaro.
C'était très haut. Merci, messieurs.
C'était le tour de l'actualité de la semaine avec Wendy Bouchard sur Europe 1. À suivre, un jour une histoire.
Philippe Legrand avec Jean-Marie Rouard qui se souvient de mai 68. À tout à l'heure.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Wendy Bouchard et les Tours du Monde en jet privé TMR vous présente l'entretien de Philippe Legrand.
Un jour, une histoire avec Paris Match et Philippe Legrand qui chaque samedi reçoit une personnalité. Vous vous souvenez avec nous sur Europe 1. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Wendy. Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Marie Rouard. Bienvenue. Vous avez choisi de nous raconter le 3 mai 1968. On se replonge dans mai 68, le début de l'installation des barricades et des premiers slogans.
Oui, je crois que c'est une date très importante. Elle a été très importante à l'époque, elle a mis en cause le pouvoir du général de Gaulle, plus largement le pouvoir de l'État et tous les autres pouvoirs, l'autorité, le père, le professeur. Mais parce que c'est une période qui a eu un grand retentissement, finalement, jusqu'à aujourd'hui.
Alors justement, qu'est-ce qu'on peut en retenir de ces barricades, de ces slogans sous les pavés la plage en particulier?
Vous savez, il s'est passé ce qui est la grande hantise des hommes politiques, c'est la coagulation. C'est-à-dire un mouvement étudiant qui est rejoint par un mouvement ouvrier. Et ça, c'est-à-dire que toutes les catégories sociales se retrouvent dans une manifestation. Heureusement, pour le pouvoir en place, il va y avoir les accords de Grenelle qui vont, disons, désolidariser les ouvriers du monde étudiant. Et puis, il va y avoir, le 29 mai, la grande manifestation sur les Champs-Élysées qui va montrer le soutien au fond populaire au général de Gaulle. Et que ce mouvement est un mouvement marginal, mais un mouvement de fond, qui est, à mon avis, il a des aspects très intéressants, des aspects à la fois positifs et négatifs. Positif, parce que, vous savez, on le ressent aujourd'hui, c'est un mouvement contre la société de consommation, avec un philosophe qui était Marcuse, et qui avait théorisé cette idée, c'est-à-dire que l'inhumanité était galopante, et on le voit aujourd'hui, l'inhumanité dans ce monde économique effrayant.
Jean-Marie Rouard, ce 3 mai 1968, donc mai 68, les barricades, est-ce que l'académicien que vous êtes était dans la rue?
Moi, j'étais à ce moment-là journaliste au Figaro, donc j'étais mal placé pour être un révolutionnaire, mais je suivais, j'allais sur les barricades, j'étais avec les gardes mobiles, les étudiants, j'étais à la Sorbonne, et j'observais ce phénomène avec une certaine sympathie pour ce qu'il exprimait en profondeur, c'est-à-dire cette révolte contre une société de plus en plus inhumaine. En revanche, je me rendais compte qu'il risquait d'entraîner l'anarchie. Et vous savez, l'anarchie, c'est très mauvais, parce que ça amène ou bien à la dictature, ou bien des crimes, des meurtres. L'anarchie, c'est vraiment quelque chose, c'est un poison très très dangereux. Donc cet aspect-là, disons, me paraissait très dangereux. Et puis, je voyais bien que le général de Gaulle, pour lequel j'ai toujours eu une grande admiration, critique mais admiration, était une digue. Il incarnait cette société traditionnelle qui était au fond un barrage contre le déferlement du fric. Voilà, il faut bien le dire, parce que, vous savez, il disait « les possédants sont possédés par ce qu'ils possèdent ».
Jean-Marie Roy, ce 3 mai 1968, je disais sous les pavés la plage pour évoquer les slogans et d'autres, il y a eu énormément de créations finalement, des affiches, des écrivains qui descendaient aussi dans la rue, et puis aussi des jeunes étudiants qui ont fait carrière. Je pense à cette image de Daniel Cohn-Bendit, photographié par Gilles Caron, qui tient tête au CRS. Daniel Cohn-Bendit, vous l'avez croisé autour des barricades ?
Bien sûr, je l'ai vu avec Gessmard, voilà, beaucoup de gens. Mais si vous voulez, cette création populaire, c'est un peu, 100 ans plus tard, la Révolution de 48. Si vous voulez, c'est ces moments de l'histoire de France où, bizarrement, ce pays, qui est un pays assez, au fond assez sérieux, eh bien, pète les plombs. Et ça passe très souvent par les étudiants et pour une cause qui est généralement infime. Et là, la cause, c'était... Alors, ça, c'était pas infime, c'était... l'environnement de la guerre du Vietnam et de la solidarité des étudiants vis-à-vis des Vietnamiens qui étaient bombardés d'une façon épouvantable au napalm. Mais ça a été, la cause première, ça a été une question de dortoir à Nanterre. Voilà, le dortoir des garçons, le dortoir des filles. Le ministre de l'Éducation nationale voulait empêcher les garçons de rejoindre les filles. Voilà, et c'est ce qui a provoqué donc cet extraordinaire mouvement de masse.
Jean-Marie Roy, dans ce mouvement de masse d'hier, de ce mai 68, est-ce que vous voyez pointer à l'horizon quelque part ce mouvement des Gilets jaunes ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un peu de mai 68 ? Vous, l'observateur ?
Oui, il y a des éléments, mais surtout, c'est un mouvement qui n'a pas rejoint, si vous voulez, culturellement, disons, le monde ouvrier. Il n'y a pas eu cette coagulation qui était extrêmement risquée, mais je pense que au pouvoir, c'est ce qu'on a pu craindre. On a pu craindre vraiment un mouvement plus général.
Jean-Marie Roy, vous les avez cités, ces quelques politiques, je pense entre autres au général de Gaulle, en évoquant mai 68. Ces politiques, ils sont dans Les Aventuriers du Pouvoir, votre nouveau livre de Bonaparte à Macron, aux éditions Robert Laffont. Ce livre s'imposait pour vous ? C'était nécessaire, cette galerie de portraits ?
Écoutez, moi j'ai toujours adoré l'histoire, parce que je considère que sans l'histoire, on ne sait pas ni qui on est, ni d'où on vient, ni où on va. Et donc, j'ai à la fois voulu reprendre des biographies que j'avais écrites sur Napoléon, mais également le cardinal de Bernis ou le duc de Morny. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est vraiment des hommes qui étaient à un niveau supérieur. Il faut dire qu'ils étaient dans une société supérieure. Donc ceux que je décris après, évidemment, les hommes politiques d'aujourd'hui, ne sont plus dans cette société, si vous voulez, à la fois très, très littéraire, très culturelle. Aujourd'hui, ils sont très différents. Donc je suis, il faut reconnaître, un peu plus sévère avec François Hollande, ou avec même Giscard d'Estaing, ou Jacques Chirac. Je l'appelle le Paganini de la Palinodie.
Merci Jean-Marie Roy. Je rappelle le titre de votre livre qui paraît aujourd'hui, Les Aventuriers du Pouvoir de Bonaparte à Macron, chez Robert Laffont. Merci, à bientôt.
Merci.
Et c'était l'entretien de Philippe Legrand avec TMR, les tours du monde en jet privé. Inscrivez-vous au 45e tour du monde en jet privé en appelant le 04 91 77 88 99.
C'était un plaisir de vous accompagner, chers amis. Merci Marlène, merci Jérémy Hébert, merci Thibault Lambert.
Merci Wendy,
à
demain.
Lecoeuvre, je vous dis à demain, 18h50 et plus si affinité.
Absolument.
Et puis, chers amis, passez une très belle soirée à l'écoute de Serge Blanco face aux auditeurs d'Europe 1 avec Lionel Rousseau. Je vous dis à demain à partir de 18h pour ce qui nous concerne. Ciao.